Lui, il dit oh no, moi je dis oh oui à l'actu. Oh putain, la gênance de cette intro, je suis vraiment désolé. Je suis confus. Un petit air de Jean-Jacques Goldman. Non, ça va quand même. Ah, la chanson. Ah. Ok. Je m'entends pas. Ah, je m'entends là. Ah. Non, pardon, je fais mes petits réglages de son. Comment ça va les. Comment je vais vous appeler ce matin, les bébous? Vous appeler comme ça. Certains ont veillé un petit peu, enfin veillé, ça va, on s'est couché à 23h, ça va. On s'est fait un petit stream Valo hier soir, c'était cool, ça faisait longtemps. On a essayé le nouveau mode de jeu là, mais bon, je crois qu'il est provisoire, c'est dommage parce que il est sympa ce mode de jeu là. Un genre de deathmatch où tu revives tes mates quand tu tues les adversaires. C'était pas mal. Quoi? Le pire, mon café est de Marc Étienne, c'est pas une blague? Serbec? Le knockout? Le chaos, ouais. Mais c'est provisoire, je crois. Serbec, tu as ta marque de café, c'est Étienne. Attends, quelqu'un m'a volé mon nom pour le mettre sur un paquet de café? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est incroyable! Ok, le café Étienne. C'est fou ça. Bon, ça va, vous avez passé un beau week-end? Prolongé peut-être pour certains. Week-end de Pâques. Voilà. J'ai oublié que tu jouais à Valorant, je t'adore. Mais moi aussi, Xen, je t'adore. Non, j'oublie pas, le niveau progresse, je vais dire doucement, pas, mais on aime toujours autant le jeu. Salut, bienvenue, Hebdroit. Première fois que je passe en stream, je suis beaucoup sur les VOD de la convention, c'est du caviar. C'est vrai qu'on se régale. Ce soir, enfin là j'ai une journée. T'as fait une belle solo queue? Ouais, vite fait MVP, mais on a perdu le match quand même. Salut Mathieu, qu'est-ce que je voulais dire? Ce matin, revue de presse, j'ai lancé tôt, vous avez vu, parce qu'à 11h30, je vous laisse. Donc ça nous fait 2h40, 2h45, quoi. Et Lilou, vous savez qui? Mon père avait caché les chocolats des enfants en plein soleil hier sur la terrasse. Du coup, gros fou rire, ils étaient tous fondus. Ça, c'est une de mes hantises. Salut Dragonnet. Ça, c'est une de mes hantises, c'est quand tu caches les œufs. Les laisser en plein chocolat. Donc, nous, on a caché à la maison, mais je les ai éloignés des fenêtres. Bien sûr. Les pauvres enfants, après. Hein? Tu imagines, tu turbines pour trouver les chocolats de Pâques et ils sont tout fondus. Tout fondus. Quand tu retrouves un œuf 6 mois après dans un pot de fleurs. Ah oui, ça oui. Mais nous, on cache pas dur, nous. On cache tranquille. Oui, bravo! Oui, l'événement pour les personnes sourdes et malentendantes. Lucas, tout salut. 17 335 euros. Bravo. Ça, c'est beau, ça. C'est beau. Bravo, bravo. Encore des victimes du réchauffement climatique au prix du chocolat. Et on en parle du prix du chocolat cette année. Le Serbec, j'ai pas fait attention. Il est chaud. Il est chaud, le chocolat. Ok. Donc c'est peut-être pas plus mal que les enfants n'aient pas tout trouvé, comme ça tu en mets de côté pour l'année prochaine. Après le chocolat d'un an sur l'autre, c'est pas fou. Hein. Y a-t-il des chocolats cachés derrière le sommaire?
Pas de chocolat.
Waouh. Merci Anonyme 31 pour ce 49e mois d'abonnement. Merci Aurélia Cavalcade pour ce 2e mois. Merci Ajrekov pour le 6e mois. Merci Olistou. Pour le 54e mois. Merci Henry Merveille pour le 19e mois. C'est fou ça. Hein? Et je vais m'en acheter des chocolats. Waouh, deux gros œufs. Waouh, Alexis. Merci Henry Merveille pour ce Prime, pour ce 19e mois d'abonnement. Merci Marine Swim pour ce 5e mois d'abonnement. Merci Paceup, Fanny, Butch Cassidy. Là, c'est incroyable. Oh, je vois la dédicace de Sale Histoire. Hier, on a raid Sale Histoire avec une streameuse que j'aime beaucoup. Et on a pas regretté. Hein. Donc hier. Petit stream ballot, ok, petit raid, tranquille, chill. Et je raid Sale Histoire, une streameuse que j'aime beaucoup, que j'ai pas raid depuis longtemps. Voilà. Et là, Sale Histoire dit à sa commu, on est d'accord, on les remercie, on remercie le raid avec une danse, comme d'habitude, manifestement habitude, et laquelle on fait. Et là, je me dis, bon, je m'attends à une petite danse des épaules, tu vois, un petit truc, un vague mouvement de la tête, comme ça, tu vois. Bon. Mais pas du tout. Mais c'était un spectacle entier. C'était un spectacle entier. C'était une choré. La danse a duré toute la musique, tout le titre, toute la chanson. Hein? Attends, à un moment, elle a sorti les fumigènes. Elle avait une boîte à fumer. Elle a fait des fumigènes comme en discothèque. comme sur les plateaux télé pour que la lumière soit jolie. Waouh! Et la Corée, c'était, elle a tout donné, quoi. Voilà, donc ça, c'était vraiment... on était contents du raid, quoi. La jeune streameuse, oui, merci Camille de rappeler que celui qui a fait le raid était un peu moins jeune, mais bon. Ah non, le raid était génial. Elle est super, cette histoire. Elle est un petit grain de folie, trop mignon. Ouais, comme dans un dancing, exactement. Tu nous refais sa Corée? Pas là, parce que j'ai un petit peu du gras. Oh là là, putain. Je voulais être en body summer pour cet été. La petite motte de beurre sur les plages, voilà, qui va fondre doucement au soleil. Pop, 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 ça va pas du tout. La pyramide, ouais. Mon corps est un hommage à l'Égypte. Ouais. J'y arrive plus, j'ai plus envie. Ça va être chaud. Bof. Tu restes sous le parasol avec Pio, c'est la bonne excuse. On va. Oui, du beurre breton peut-être. Ouais, c'est pas fou, hein, c'est pas fou. Ah là là. Salut Nick Sora, ça va? Bienvenue. Donc, j'ai un corps de butternut perso, me dit Pierre. Ouais, c'est pas. Ouais, Robert, oui, Orangina. Si Orangina me regarde, il y a moyen de faire une petite OP. Voilà. Peut-être je peux me déguiser assez facilement en bouteille d'Orangina. Il suffit que je me peigne en jaune. Hein. Donc, la journée aujourd'hui, la revue de presse, jusqu'à 11h30. Paf, 11h30, je vous laisse. 11h45, taxi, gare. Gare, Tours, la ville de Tours, parce que les assises du journalisme de Tours. Voilà. Je participe à deux conférences table ronde aujourd'hui sur notamment comment informer aujourd'hui face au risque de la désinformation, face à la multiplication des sources. Vous connaissez, on en parle tous les matins, donc je vais aller en parler à un public là-bas, un public jeune, mais pas seulement. Première partie collégien-lycéen, puis deuxième partie séance plénière. Voilà. Je sais pas pourquoi j'appelle comme ça, ça s'appelle pas du tout comme ça, mais ça fait chic. Et après, je reviens, je saute dans un TGV, je reviens, et il y a un monde où je fais un stream ce soir. C'est filmé, retranscrit, je crois pas. Je crois pas, peut-être pas, je sais pas. Non, je crois pas. Mais si tu fais la pyramide quand tu es allongé, c'est flatteur pour madame. Je l'ai pas. Je l'ai pas, la pyramide allongée. Parce que, hein, comme mon ventre est un peu gros, ça fait une pyramide même quand je suis allongé. Je l'ai pas. J'ai pas l'image. J'ai pas la vision là. Donc voilà. Non, autre chose qui fait la. Waouh, le chapiteau. Waouh. Les gars, il est 8h54 du matin là. Non, il est 8h54 là. Le Samasutra. Poi, poi, poi. Ah non, mais laissez-moi sur le bas-côté de la route, je vais vous ralentir là. Je reprends du café. Bon, petite nuit cette nuit, parce que réveil tôt, il fallait être prêt ce matin. Du coup, c'est Hélène qui a emmené les enfants à l'école, parce que je voulais lancer plus tôt, vous l'avez vu, à 11h30. On cut, et ce soir, alors je crois qu'il y a l'audition qui va être très intéressante de... C'est quand l'audition de Madame Ernotte qui revient devant la commission, parce que ça, on va vouloir le react. C'est demain. Ouais, donc si j'en fais une ce soir, si j'en fais, donc c'est, ouais, donc là on approche de la fin, quoi. Mais est-ce que ce serait la dernière audition, du coup, ce serait assez logique. Attends, on serait déjà à la fin de ce poulet là. Merci Oderlin, merci Sinfarch. Ouais, Jean Massier, mais c'est autre chose, c'est dans une autre commission, mais ça m'intéresse aussi, ouais. Merci Serbec, tu régales. Mais ça, peut-être qu'on dirait la fin de quoi? La fin de la commission de l'Assemblée sur l'audiovisuel public. Je suppose que si Madame Ernotte passe demain soir, c'est que c'est la fin. Je suppose. Après, le rapport qu'on a tous envie de lire avec impatience. Pas encore Yanns de retour. Pas encore de réponse. Ouais. C'est la DER? Ah ouais. Donc peut-être que ce soir, mais ce soir je vais rentrer tard. Peut-être que ce soir, on fait... Moi, il y en a une qui m'intéressait. C'est la directrice de France Télévisions. C'est la présidente. Top 1. Ouais. De France Télévisions, de Delphine Arnault. Ouais. OK. Ça m'a quand même réussi à remplacer mes soirées jeux vidéo par les soirées commissions. Ça, c'est fort quand même. Des grosses commissions, même. Donc ce soir, idéalement, ce serait bien que je lance effectivement un stream commission. Je pense que la dernière qui m'intéresse, c'est on est d'accord, c'est celle avec, je dirais, Rodolphe Belmer, patron de TF1, enfin, la série, quelques dirigeants. Voilà. Et après, on réacte Delphine Ernotte. Mais du coup, Delphine Ernotte, c'est en soirée? Bah non, ça pense soit dans l'après-midi. Ça doit être sûrement l'après-midi. Ouais, je vais voir. C'est l'après-midi? Attends, je vais prendre mon agenda, ça me stresse parce que je sais pas ce que je fais cette semaine. Oui, j'ai vu le président de la commission sur RTL, ouais. Incroyable. Le président de la commission qui dénonce le travail de la commission. Enfin, du rapporteur. Agenda papier numérique. Camille, tu t'en vas déjà? Ah. Est-ce qu'on peut être élu plusieurs fois? Est-ce qu'on peut être élu plusieurs fois à la suite à la tête de France Télévisions? Oui, on peut être élu. Je ne sais pas s'il y a une limite. Jusqu'à Madame Ernotte, personne n'avait réussi. Oh le raid qui fait plaisir. J'arrive. Personne n'avait réussi à être réélu à la tête de France Télévisions. Aucun président, il n'y a eu que des hommes, n'avait réussi à être réélu à la tête de la commission. Et Madame Ernotte a été réélue une première fois, ce qui était une grande première, et a été encore élue après, donc c'est son troisième mandat, et ça n'est jamais arrivé. Je ne sais pas si c'est limité dans le temps. Voilà. Je vous montre la chaîne qui vient de nous raid à l'instant. Merci beaucoup. Voilà, c'est Camar. Camar. Camar, je suis sur ta bio pour voir un petit peu ce que tu proposes, mais. Là, tu n'as rien écrit, je vois que je te suis pas. C'est corrigé. Bim, follow, bam. La voiture. C'est la voiture. Ah, il y a de l'IRL aussi. Ok. Ah, je connais Hydro. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, Camar, sur ta chaîne? Je vois. Tu connais MMG? Bah oui, toi, t'aimes la bagnole. T'aimes la bagnole! Il n'y a pas grand-chose en bio. Effectivement, je fais du live camion. Que cam c'est camion ça? Ah. Eh ben bienvenue. Merci et merci pour le raid, c'est adorable. Hyper gentil. Camar. Kaarmar. Live au volant? Non, non. Enfin, non, je pense pas, hein, c'est du jeu vidéo. Hein. Et Sim Racing à principal. Attends, live camion. Live camion IRL? Attends. Ton camion ressemble quand même beaucoup à une voiture de course. Attends, il est où ton live? Attends, je suis pas. Non, parce que là, je suis sur les trucs. Non, je suis sur les clips à la une, je suis débile, attends. Voilà. Alors, attends, mais oui! Ah, mais j'adore! Ah, mais j'adore! Attends, on passe la pub. Ah, des live camions IRL. Il y a une streameuse qui conduit des poids lourds qui est. Je sais pas si elle est néerlandaise ou belge. Ou anglo-saxonne. Voilà. Qui s'appelle Chloé. Chloé underscore IRL, que tu dois connaître. Mais oui. Mais j'adore! T'as un petit lapin là. Un gros camion, ça, non? Elle est belge? Ah voilà, elle est belge? Elle est irlandaise? Mettez-vous d'accord. Oh la classe. Oh gros camion. Attention, il y a un dodan. Attention, il y a un dodan. Hop là, vous l'avez senti? Incroyable. Ah, il y a une rupture de co. Ça, c'est classique, ça. Allez, allez, allez. Bretelle d'engagement. On accélère. Le clignotant est mis, c'est propre. Voilà. Ça monte dans les tours. On s'insère en douceur. C'est propre. J'adore. Ah, moi je kiffe. C'est quoi le. C'est Scania le. Je sais pas, le. Je connais pas le logo là. Je connais rien. C'est Scania? C'est pas un Scania ça? Y'a que toi qui kiffe là? Non, bah non, tout le monde. Oh putain, je. Vous avez pas l'image? Ah, mais je suis débile! Excusez-moi, je suis pas réveillé, je manque de café. Ah, mais c'est des dingueries! À un moment, il a roulé sur des gens et tout. Ouais. Ah, je suis débile. Ouais. Donc, vous avez pas vu le dodan?
Oui, c'est pas impossible en vrai ça.
Putain, j'ai joué à Choc, il dit, mais y'a que toi qui kiffe là. Je dis, bah non, c'est super en vrai.
En vrai,
oh, je suis désolé.
Voir Lance Stroll en GT, déjà je m'y attendais pas du tout.
Petit GPS là.
Et
donc en c'est du Scania, tu vois. Eh, tu vois, eh.
Donné.
Il s'y connaît, papy, hein. Ouais. C'est du Scania, voilà. Merci beaucoup pour ton raid, c'est adorable. Attends, moi j'essaie de vous montrer la chaîne. Mais je suis pas réveillé là. Merci, c'est Nezu. Merci pour le cinquième mois. Bon, on va y aller, hein. Bah, de rien. Désolé, t'es déjà pas. Je voulais surtout montrer ta chaîne, quoi. Vachement efficace, la dernière mise à jour Euro Truck, j'adore. Non, c'est incroyable. Et donc, il y a cette streameuse aussi que je suis là, qui conduit des poids lourds. Allez, l'enchaînement des raids. Donc, les amis de Naotech nous rejoignent. On vient d'être raid par l'ami Camar qui conduit des poids lourds. Et voici un poids lourd des matinales. Voilà. C'est la team Naotech Team, la meilleure matinale sur l'info tech. Nao Tech, voilà, c'est aussi une chaîne YouTube. C'était qui ce matin? C'est quoi l'actu tech? Moi j'ai un iPhone 12, mon épouse se moque de moi, elle me dit putain, mais change ton iPhone. Je lui dis, bah, tu vois bien qu'il commence à ramer et tout, la batterie est lâche, t'as des bugs, les mises à jour sont plus. Ça tient. C'est quoi l'actu tech? Salut Sam, est-ce que Trumpy va foutre le feu, le gazole à 2,45€ ce matin? Mais il a foutu le feu déjà, ça y est, c'est fait. On a parlé des robots livreurs, trop bien. Incroyable. Vous croyez que je dois changer mon iPhone 12? J'aime bien pousser les trucs jusqu'à leur fin de vie, moi. Une photo à l'iPhone depuis le module Orion autour de la Lune. Ah. Tu l'as depuis combien de temps, c'était par curiosité? Ben, depuis la sortie du 12, en gros, grosso modo, quoi. Ouais. Fairphone, c'est mieux un Fairphone? C'est mieux? Mais je vais retrouver toutes mes applis. Au pire, change. On est au combien? Je sais pas. Fairphone, garantie 5 ans. On est au 17, quoi. Prends un Android, c'est mieux. On est au 17 là, c'est ça. Fairphone 5, testé et approuvé. Fairphone, j'en ai pris. C'est un gigascam, me dit C'est Bizio City. Allez, c'est parti le débat. Ketzak, Fairphone, la qualité est pas ouf. Désolé, j'ai lancé un débat. Fairphone, mieux éthiquement, mais mou du genou, me dit Fusion. Ah. Il y a débat. Mais Fairphone pour la planète. J'en ai un depuis 3 ans, c'est facile à réparer et tout. Le Fairphone, c'est un téléphone militant, me dit MonsterNet, faut savoir faire quelques compromis. C'est ultra solide les Fairphone. Est-ce que tu peux assommer des gens avec, c'est pour un ami? Si tu le lances très très fort, est-ce que tu peux assommer quelqu'un, c'est pour un ami? Dans ses déplacements professionnels. Oui? Ok, ça m'intéresse. MMG me dit, ce que j'aime bien avec Fairphone, c'est qu'on peut changer la batterie en 3 minutes, mettre une carte SD dedans et avoir un OS français dessus. Oui, mais si on le lance très fort, est-ce que ça peut assommer quelqu'un? Merci la Mumzette. Pour le 55e mois, c'est beaucoup quand même. Hein. Mon avis perso, si t'es full Apple, iPad, MacBook, reste iPhone, tu seras plus tranquille. Ben ouais, moi je suis très Mac. J'ai tout ça, ouais. Merci Kevinox qui me dit si ton iPhone 12 te convient encore, garde-le. Par contre, si t'es limité, c'est sûr qu'à un moment, il faudra penser à changer. Je le garde. Tu nous appelles quand tu changes de smartphone, me disent les amis de Naotech Team. On fera un débrief. Ok. Tu peux le lancer sur... Non, Karine, arrête. Il y a pas débat, reste Apple, me dit Sugar. Ok. Merci Merzette. Merci beaucoup. Arrêtez, je veux assommer personne en particulier. Je demande, c'est pour un... D'ailleurs, c'est pas pour moi, c'est pour un ami. C'est pas pour moi. En tout cas, s'il se casse en le jetant sur quelqu'un, tu peux le réparer. Ah, ça m'intéresse, pour mon ami. Ok. Tant qu'Archero 2 tourne bien. Bah arrête, je me suis mis aux échecs. Je me suis mis à... Je joue aux échecs maintenant. Je suis nul d'ailleurs. Ok, bon, les amis, on passe une très haute presse. À 11h30, je vous abandonne. 11h30, je vous abandonne parce que j'ai un train qui m'emmène à Tours. Ouais. Pour assommer, je pense qu'une tablette est plus opti. Ouais, mais enfin, tablette, c'est mon outil de travail. Hein. Regardez-moi, elle est là, ma tablette. D'ailleurs, attention, suspense, parce que je l'ai branchée et je ne l'ai pas vérifiée. D'habitude, je vérifie toujours ma tablette. Et en général, quand tu branches et que tu ne vérifies pas, c'est le jour où ça ne marche pas. 3. Ah, attends. C'est branché là-bas. 3, 2, 1. Oh putain, ça marche. Voilà. Ok. Let's go. Est-ce que vous êtes ok pour un sommaire, bande de beaux gosses? Le sommaire, il est là, il est magnifique. C'est un gros sommaire. On aime les gros sommaires ici. Ouais, c'est un gros sommaire. Il y a des trucs. Il y a du Trump, il y a du carburant. Il y a un petit coup de projecteur sur les aides à domicile, vous allez voir. On va parler de la lutte contre le racisme en France. Du déficit diagnostic de l'endométriose, sujet important. Et puis un truc perso qui m'a... J'ai jamais rien compris sur l'arrivée de la facturation électronique pour les entreprises. J'ai jamais rien compris ce truc-là. Donc du coup, je me suis mis un petit papier de côté pour qu'on en parle. J'ai pas suivi Sam, tu viens faire quoi à Tours dans ma ville? Embrasser ma petite sœur qui vit dans la région et participer aux assises du journalisme de Tours qui se tiennent en ce moment à Tours. Ouais. On y go? Est-ce que j'ai votre go? Est-ce que c'est parti? Sans plus attendre? Oui, Artemis, bien sûr, la lune. Je vais vous montrer la lune. Et non pas ma lune, désolé. Si tu veux, j'explique la facturation électronique, je suis à mon compte. Eh bien, je veux bien, reste avec moi. Ma meilleure amie est experte de la facturation électronique pour l'entreprise si t'intéresse davantage. C'est adorable. Étant comptable, la dématérialisation, c'est un bordel. Merci Priscilla. Merci de dire les termes, parce que ce truc m'a l'air un peu compliqué quand même. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Viens boire une bière, mon Sam. Je peux pas. Attends. J'arrive à 45. J'arrive à... Genre... Je sais pas quelle heure. J'arrive à l'heure où commence ma conférence. Mon train arrive en gare à l'heure où débute ma conférence. Voilà. Heureusement, la gare est en face du Palais des Congrès. Donc, je sors de la gare, je sprint, je cours, je me casse la gueule, je me relève, voilà. Je me pète une dent, j'ai comme ça. J'arrive, je me présente au bureau de pas des élèves mais du truc. Paf, paf, paf. Bonjour, c'est moi, j'ai chaud. Excusez-moi, j'ai une dent en moins, je me suis cassé la gueule. Donc là, je parle devant des collégiens et des lycéens. Ouais, vas-y, quand est-ce que tu montes ton... Ouais, vas-y. Voilà. Et puis j'ai une autre conférence après. Et après, pop, je repars dans l'autre sens. Mon train sera à l'heure. Bah, il est à l'intérieur. Non, ça va chier. Alors moi, j'ai rarement de train de problème avec la SNCF, moi. Je sais pas. Si vous voulez prendre le train et être à l'heure, prenez le train avec moi. Avec moi, je suis très rarement en retard en train. Ouais. Ouais. Fais-nous un quoi? Un 67? Un 67. Ouais, Samuel, fais-nous un 67. C'est quoi un 67? Un 67? Après, est-ce que tu as toujours le numéro de Jean Castex?
Oui.
La plus belle gare du monde à Tours? Ouais. Ok. T'as prévu des punchlines pour ados?
Non.
6-7? T'as fait un 6-7?
C'est quoi un 6-7?
Je sais qu'il y a plus de trains de retard sur le sud-est, ouais. MMG. 6-7? Tu connais pas? Alors parfois je fais le cognot, le mec qui sait pas de quoi vous parlez, mais là je sais pas là. Oh, non mais expliquez-moi en vrai. Non mais pour le coup je sais pas là. Premier degré. C'est quoi, c'est une boîte de nuit? 10 6-7 en anglais, bouge tes bras comme si tu voulais peser de légumes. 6-7 avec les mains qui font la balance. Quoi? C'est quoi cette
daube?
C'est nouveau quoi coubé? Comme ça là? Eh ben dis donc. Il y a un truc de France Info là-dessus? Qu'est-ce que c'est que cette daube? 6-7. Bah attends, ça date de 2000. J'ai un article là qui date de super longtemps. D'octobre 2025. Je suis en courant de rien, moi. Ok. C'est un vieux truc en plus. C'est complètement inutile, donc quasiment indispensable. Bon, on va annuler l'Iran et la Lune, on va parler de ça. Ok. Bon, allez, on va bosser, parce que sinon je vais jamais vous faire l'actu. Allez, c'est parti. C'est parti pour le sommaire. Il y aura un petit 3-4 parce que c'est là que ça commence pour nos amis du podcast audio. C'est parti. Voilà. Toc. Gros sommaire. 3-4. Bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver dans la matinée. Etienne, la revue de presse, votre grosse revue de presse. Qu'est-ce que j'ai là ? J'en fais des caisses. Tous les matins, hein, que ce soit lundi de Pâques comme hier, que ce soit... que l'été prochain, ça va être tous les matins aussi, c'est tous les jours. Voilà. La matinée Etienne depuis 5 ans sur Twitch, c'est également en replay, donc merci à ceux qui m'écoutent en live ce matin sur Twitch, merci à ceux qui nous écoutent en replay sur YouTube, merci aussi à ceux qui nous écoutent en replay en podcast audio, parce que c'est la fête du podcast, voilà, vous êtes super nombreux à nous écouter en podcast, et merci pour ça. On commence par les titres, hein, un petit résumé de l'actu, vite fait pour... ceux qui n'ont pas forcément 2-3 heures à me consacrer ce matin, sachant qu'il reste 2h15 dans votre de presse, parce que j'ai un petit train tout à l'heure qui m'emmène à Tours. Alors, dans l'actu ce matin, évidemment, comment faire l'impasse sur l'Iran. Voilà. Alors, on va parler de la Lune aussi, vous voyez cette une de Libé, mais d'abord de Trump, d'abord de l'Iran. Trump d'ailleurs lunaire, Libération, un journal qui aime bien faire des jeux de mots, le président des États-Unis qui a menacé lundi de détruire l'Iran tout entier à l'expiration de son ultimatum ce mardi soir. Ça tombe bien, ce mardi soir c'est dans quelques heures, donc on va se pencher là-dessus. Voilà. Iran, Trump entre menaces de destruction et auto-célébration, notamment du sauvetage du pilote américain dont je vous ai déjà parlé. Avant de parler de la Lune, on parlera aussi du prix du carburant. Hein, quelqu'un me disait tout à l'heure, Samuel, 2,45 € le litre de gazole, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je lui dis, c'est cette question... c'est celle qui est posée au gouvernement. Est-ce que le gouvernement va intervenir pour limiter la hausse des prix pour les entreprises, pour les particuliers? C'est le dossier de l'humanité ce matin, le dossier principal de l'UMA. Le cornu bloque sur les prix. Hein. Le Premier ministre refuse de s'attaquer à la flambée de la facture à la pompe, alors que de nombreux salariés sont pris à la gorge. La gauche appelle à plafonner les tarifs. Alors il est intéressant ce dossier parce qu'il nous donne l'actualité autour du carburant, mais il nous décrypte aussi les différentes mesures qui pourraient être prises, hein, donc des aides, des primes par exemple, ou le blocage des prix, hein, et on verra qu'il y a deux types de blocage des prix. L'humanité décrypte ça avec beaucoup de rigueur, je trouve ça assez intéressant. Et puis l'humain en profite, et je trouve ça très bien, pour faire un coup de projecteur, un focus sur les aides à domicile, hein, qui est un métier vital, capital, hein, difficile, mal payé, peu considéré, avec des aides à domicile qui font souvent beaucoup de routes, donc directement impactées par cette hausse des carburants. Et on a un article très intéressant et un portrait d'une femme qui est aide à domicile et qui explique très clairement combien la situation est difficile pour sa profession. C'est une façon de rendre aussi hommage à ces aides à domicile qui font un travail incroyable. On ira donc sur la Lune, enfin sur la Lune, autour de la Lune, puisque les astronautes... du vaisseau Orion, mission Artemis 2, ne se pose pas sur la Lune, vous savez. Donc le vaisseau Orion 2 d'Artemis 2 a survolé lundi notre satellite naturel à 6500 km d'altitude. L'équipage a photographié le disque sous toutes ses coutures, les cratères, les immenses mers de la face cachée de la Lune. C'était pas un album des Pink Floyd, ça ? Dark Side of the Moon, un truc comme ça ? Il est passé derrière, exactement. Ouais. Tout à fait. Objectif, éclairer l'histoire géologique de la Lune. J'ai lu tous les papiers ce matin sur la Lune et clairement le dossier de Libé est vachement intéressant parce qu'il explique pourquoi on fait ça, comment, qu'est-ce que ça peut nous apprendre de la Lune, qu'est-ce que ça peut nous apprendre de la vie, de la création de la vie sur Terre. Oui, mesdames et messieurs, voilà. Ouais. C'est ça, hein, c'est Pink Floyd.
Dark Side of the Moon.
Voilà. Je vous parlais aussi de racisme en France. Je vous lis en même temps. Voilà. Nous refusons de nous taire. Plus d'une dizaine de milliers de personnes se sont assemblées samedi à Saint-Denis. Hein, c'est, je vous lis pas mal Luma ce matin. Ça dépend des jours. Les journaux m'inspirent plus ou moins selon les jours. Je les aime tous, mais ça dépend. Pour soutenir le maire Bali. On dit Bali ou Bailly ? Il y a deux L d'ailleurs. Moi, je dirais Bali. Mais il y a deux L. N'hésitez pas à me corriger. Bali Bagayoko, victime d'une déferlante raciste depuis son élection. Ah. Oui, il y a une histoire de CNews là-dedans, vous avez raison. Voilà. Donc, on se penchera dessus. On est mardi pourtant, mais vous savez qu'il y a beaucoup de journaux qui n'ont pas paru hier lundi. Puis le dimanche, c'est un peu compliqué aussi. Donc, voilà, on revient un petit peu sur l'actu de la fin de semaine dernière. Il me semblait important de souligner cette mobilisation et de dire ce qu'il y a derrière. Pardon. On dit Bali ? On dit Bali. Merci. Merci, Rolti, pour le Prime. Merci, Merzette. Merci beaucoup. Alors, l'endométriose, alors ça, c'est un truc dont on parlait jamais avant, dont on parle de plus en plus, et pourtant qui est encore auréolé de mystère. Et alors, il y a un article qui est vraiment intéressant dans le Figaro qui nous dit que le diagnostic de l'endométriose chez les femmes met souvent un temps fou à être posé. Voilà. Entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic, il existe un délai moyen de... Merci, c'est quoi ce pseudo ? Merci, Avril. De 10 ans entre les premiers symptômes et le diagnostic, un délai moyen de 10 ans, c'est gigantesque. Donc on a un petit souci quand même. Pour cette maladie, dont l'étude est devenue obligatoire pourtant pour les étudiants médecins depuis 2020. 10 ans, c'est dingue. Hein. Les femmes qui en sont atteintes ne savent pas toujours en reconnaître les signes extrêmement variés. Pour le coup, l'article du Figaro est vraiment intéressant. Voilà. Bah oui, oui. Mais le fait même qu'on en parle montre bien qu'il y a un début de prise de conscience. Voilà. Ouais. Après avoir le diagnostic, ça sert à rien, comme il n'y a pas de traitement. Ouais, mais c'est quand même mieux d'avoir un diagnostic. Et puis on va croiser les doigts, parce qu'il y a des... On espère que les choses vont arriver quand même. Quels sont les symptômes ? Je te dirai. Et puis il y a peut-être des médicaments qui peuvent apaiser, non pas guérir la maladie, mais apaiser peut-être les symptômes justement. Hein ? Voilà. Il n'y a pas de traitement, mais par prophylaxie, on apaise les symptômes, me dit Serbeck sur Amar. Merci beaucoup. Voilà. Et ça sert pour les reconnaissances handicap et les remboursements, Gerlet. Merci beaucoup. Voilà. Plus c'est diagnostiqué tôt, moins c'est dur, dit Shidusha elle-même. Voilà. Alors. Ambragone, l'article va t'intéresser parce que ça parle notamment de ton cas. Je suis quasi persuadé d'avoir de l'endométriose, mais je n'arrive pas à me faire diagnostiquer. J'ai laissé tomber. J'applique les conseils pour les patients et voilà. Eh bien, l'article parle de ça. Voilà. Que parfois, le diagnostic est compliqué et l'article dit, voilà, dans ce cas-là, il y a peut-être une solution. Voilà, ça, je pense que c'est intéressant. Mais oui, voilà. On est dans le quotidien de beaucoup de femmes ou de jeunes femmes. C'est ça ne saurait. J'ai deux élèves qui ont des règles très douloureuses au point de ne pas pouvoir venir en classe. Rien ne leur est proposé. C'est quand même scandaleux. Elles doivent attendre d'avoir 18 ans. Vous voyez ? Voilà. Alors, il y a l'IRM, mais pas seulement. Il y a un test, je crois qu'il y a un test buccal qui est arrivé il n'y a pas longtemps et qui peut permettre de diagnostiquer des cas qu'on ne voit pas à l'IRM. Voilà, je vous parlerai de ça. Et on finira avec la facturation électronique. Bon, là, c'est un peu perso parce que je sais que ce truc arrive pour les entreprises. Là. D'abord pour les grosses entreprises, ensuite pour les petites entreprises. Et je me pose beaucoup de questions parce que moi aussi, je vais devoir passer la casserole de la facturation électronique, comme tous les entrepreneurs. Même s'ils sont micro, même si c'est des petits entrepreneurs. Et donc, moi, ça me stresse un peu parce que j'ai peur de ne pas savoir faire, de mal faire, d'être à côté de la plaque et tout. Quoi. Donc, on se pensera là-dessus. Il y a quelqu'un qui dit « Enfin, un sujet intéressant !» Je me dis « Bah, oui, il y a quand même l'Iran, tout ça. » Et en fait, le pseudo, c'est trop mignon. Le pseudo qui nous dit « Enfin, un sujet intéressant !» c'est le comptable. J'adore. En Belgique, il y a eu Popol. C'est qui ça? Ah, Paypal. Salut, Crack Dur. Crack Dur, il y a la Zidane qui arrive là. Ah, Paypal. C'est quoi Paypal? C'est la facturation électronique en Belgique? Pourquoi vous appelez ça comme ça, vous, encore? Kézako Paypal. Kézako Paypal. Quoi? Twitch, c'est pas une entreprise et c'est pas un métier? Quoi? Quoi? Ah oui! Ah oui, c'est toi! Alors, Mustang666 m'est arrivé dans la communauté. Tout à l'heure, son premier message était intriguant. Je ne voulais pas partager. Donc, premier message à 9h17. Salut, pourquoi chat réservé aux followers? Pourquoi toi, pas utiliser verbe déjà? Hein, pourquoi pas utiliser phrase complète? Deuxième message, 9h19. Vous êtes contre le racisme. Alors, la phrase est OK. Alors, par contre, je ne savais pas que racisme s'écrivait comme ça. Mais on ne juge pas orthographe, c'est pas un sujet. Et donc, à 9h21, Twitch, c'est pas une entreprise et c'est pas un métier. On attend le quatrième message avec impatience. Hein? Tu vas react à l'annonce de la Zidane samedi soir? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, moi, commencer revue de presse. Vous d'accord ou pas? Merci, Julo 18. Merci, Elite Le Camille. Vous d'accord? Ok, c'est parti. Faut pas fumer hein, le matin, c'est pas bien. Hein. Allez, c'est parti. C'est parti. Presse. Allez, restons sérieux un petit peu. Bon, alors évidemment, on va commencer par l'Iran. Hein. Comment ne pas commencer par l'Iran, vu que... Comme un monsieur qui s'appelle Donald Trump, le président américain, qui dit « Bon, ce soir, je vais peut-être raser l'Iran, quoi. Je vais peut-être tout détruire. » Non mais attendez, mais on pensait qu'au début, c'était pour libérer le peuple iranien du joug, de la férule du régime islamique. Alors moi, ce soir, si vous ne m'avez pas ouvert les trois d'Hormuz, je rase tout, quoi. Bon. Heureusement, avec Trump, souvent, il annonce des trucs et il fait rien. Ce que les Américains appellent le syndrome taco. Trump always chicken out. Hein. Trump se dégonfle toujours. C'est parti. Après, un jour, il va pas se dégonfler. Et là, waouh. Salut Polar. Merci pour ton message. Guerre en Iran. Trump lunaire. Clin d'œil de libération à une autre actualité. Après s'être longuement vanté du sauvetage d'un pilote américain sur le sol iranien, le président des États-Unis a menacé lundi de détruire le pays tout entier. Il ne s'agit pas de détruire le régime. Hein. Il s'agit de détruire le pays tout entier. Le pays dans lequel il y a des habitants. Hein. Des hommes, des femmes et des enfants. À l'expiration de son ultimatum, ce mardi soir. C'est ce soir, aujourd'hui. Édito, Alexandra Schwarzbrod, impasse. Alexandra Schwarzbrod qui a écrit « Nous pensions avoir vu le pire de Donald Trump, mais chaque jour qui passe montre que le pire n'est pas encore atteint. L'Iran tout entier pourrait être détruit en une seule nuit, et ce pourrait être mardi soir, c'est ce soir, a annoncé le président américain lundi au cours d'une conférence de presse hallucinante et hallucinée d'autocélébration sur le sauvetage, vous savez, je vous en ai parlé, d'un pilote américain tombé en Iran. Dieu était là pour nous protéger, a déclaré Trump. » Vous avez pour les plus anciens, Ophélie Winter qui nous a chanté « Dieu m'a donné la foi ». Et là, c'était « Dieu était là pour nous protéger » selon M. Trump. Une fuite en avant vertigineuse qui ne fait plus aucun cas du peuple iranien et qui risque de braquer encore davantage le régime en place à Téhéran au stade où nous en sommes de cette guerre lancée sans préparation ni objectif. Aucune des deux parties, l'américano-israélienne et l'iranienne, ne peut en effet caler. Cela passerait pour une abdication côté iranien, un renoncement côté américain et israélien, et dans le même temps, une poursuite de la guerre risque d'être catastrophique pour Trump, qui semble de plus en plus perdre les pédales, pour la communauté internationale qui se voit menacée d'un grave choc pétrolier, voire de bien pire, un énorme choc économique, et pour l'Iran, qui se verrait donc noyé sous une pluie de bombes et de missiles, régime et population confondus. Merci Nathan pour le soutien à l'instant. C'est dans ce contexte donc que plusieurs pays médiateurs, peut-être lueurs d'espoir, Pakistan, Turquie, Égypte, ont désespérément tenté de proposer un plan pour mettre fin au combat, plan aussitôt refusé par l'Iran qui sent bien que le vent ne tourne pas en faveur de Trump et de ses bordées d'injures quotidiennes. On a lu hier... Salut, Opus June. On se voit bientôt alors. On a lu notamment un tweet de Trump qui était hallucinant hier. Le régime des Mollahs, du moins de ce qu'il en reste, peut par ailleurs mettre en avant ses doutes sur la réalité d'un cessez-le-feu s'il a du même ordre que celui conclu par Israël à Gaza qui n'a quasiment jamais été respecté. La situation est donc dans une impasse totale, d'où le titre de cet éditorial. Donald Trump en étant toujours à se demander, à demander aux Iraniens de se soulever, cette phrase est folle, Trump en étant toujours à demander aux Iraniens de se soulever, alors que ceux-ci sont tétanisés par les bombes israélo-américaines et la cruauté d'un régime qui n'a plus rien à perdre. Et le monde en est réduit à assister impuissant à cette course vers l'abîme. Astroflash, le pire c'est pas Trump, c'est bel et bien les sales régimes islamiques de la région. Tu en vois combien des régimes islamiques dans la région? Tu mets ça au pluriel. Ne nous trompons pas d'ennemis, ceux qui tuent plus de 30 000 personnes et obligent les femmes à se voiler, c'est pas Trump, c'est eux, ne jamais oublier les Mollahs. Alors, il se trouve que sur cette chaîne, tout ça, on l'a documenté, on en a parlé très longuement, des massacres organisés par le régime. Donc, tu nous apprends pas cette info. Alors, si ce qui se passe en Iran doit excuser et cautionner le comportement d'un président américain quasi fou, ou dont le comportement en tout cas semble totalement irrationnel, c'est ton problème, mais ça n'est pas mon avis. Voilà. Lisons l'article de Libé ce matin, signé François-Xavier Gomez, Trump entre menaces de destruction et auto-célébration. Il a promis de déchaîner l'enfer et de tout détruire en Iran. La personne à l'instant semblait opposer la souffrance du peuple iranien aux vertus supposées de Trump. Trump menace aujourd'hui de déchaîner l'enfer, de tout détruire en Iran, et il ne parle pas, ami qui nous écrivait à l'instant, du régime, mais il nous parle du pays. Il nous parle du pays. Si le pays n'acceptait pas de rouvrir le détroit d'Ormuz au transport maritime, détroit d'Ormuz, avec ses conséquences sur les cours du pétrole. Donc d'un côté, une crise pétrolière, une crise économique, et de l'autre, un président américain qui dit « si vous ne me rouvrez pas ce détroit, eh bien, littéralement, je rase le pays ». Je n'invente pas ces mots, hein. Ce sont des mots prononcés et écrits par Trump. Et la menace du président américain, comme son habitude, était assortie d'un ultimatum. Dimanche, le délai fixé à lundi minuit était rallongé de 24 heures. Lundi à la mi-journée, Donald Trump a répété ses imprécations devant la presse à la Maison-Blanche. L'Iran tout entier, hein, pourrait être détruit en une seule nuit, et cette nuit pourrait bien être celle de demain. Quelqu'un dans le chat a essayé de nous expliquer que finalement Trump représentait le camp du bien dans cette histoire. Écoute, je pense que c'est un tout petit peu plus compliqué. Et cette nuit pourrait bien être celle de demain, c'est-à-dire celle de mardi à mercredi. La République islamique avait auparavant annoncé des représailles encore plus dévastatrices contre ses ennemis que les tirs de missiles sur les monarchies du Golfe Persique alliées des États-Unis qui se poursuivent. Devant les journalistes, le mince espoir né de la présentation d'un plan de paix mettant fin aux hostilités, donc présenté la nuit précédente par des pays médiateurs comme le Pakistan, l'Égypte et Turquie, a vite été balayé. Alors que prévoit ce plan de paix d'ailleurs? C'est intéressant. Un cessez-le-feu pour 45 jours, la libération du détroit d'Ormuz et l'ouverture de négociations entre Iraniens et Américains et Israéliens. Washington et Téhéran ont rejeté ce plan de paix. Presque simultanément lundi matin, mais dans des termes différents, l'Iran a affirmé que le détroit ne rouvrirait totalement qu'en cas de fin définitive et non provisoire des combats. Pour la Maison-Blanche, le plan est une idée parmi beaucoup d'autres et le président ne l'a pas validé. Arrêtez le monde, je veux descendre, me dit Exutoire, tu m'étonnes. Même si Trump a parlé d'une étape très significative, mais qui à son goût n'est pas encore assez bien. L'enfer prophétisé par Trump a dans les faits déjà commencé 38 jours après le début des hostilités. Donc on commence à être très au-delà de la promesse de guerre rapide de 3-4 semaines. On est au-delà désormais de Trump. Il consiste, cet enfer, à frapper les installations non militaires, on en a parlé longuement hier, aujourd'hui, parmi les cibles des bombardements. En Iran, vous avez des structures civiles, vous avez des centres de santé, notamment un centre qui fabrique l'essentiel des vaccins pour l'Iran. Voilà. C'est bien le peuple iranien qui est frappé ici. Il y a aussi l'économie, l'industrie iranienne, les ponts. Voilà. Les premières victimes de tout ça, c'est bien les Iraniens et les Iraniennes. Il consiste à frapper des installations non militaires, comme la seule centrale nucléaire du pays, à Bushehr, dont les abords ont été touchés samedi, des installations gazières, comme le complexe pétrochimique de Sousse-Pars, le plus grand gisement de gaz du monde, ou les infrastructures routières. Au moins un pont routier a été détruit afin de paralyser les communications terrestres. Largement décrit comme constituant un crime de guerre, le ciblage d'équipements civils ne dérange pas Trump, qui s'est justifié. Hein. Un crime de guerre, c'est permettre à un pays malade avec des dirigeants déments de posséder l'arme nucléaire. Donc, pour Trump, il n'y a pas de crime de guerre commis en Iran. À la Maison-Blanche, le président milliardaire a surtout décrit avec un luxe de détails et de superlatifs le sauvetage pendant le week-end de deux aviateurs dont les appareils ont été abattus en territoire iranien. Je n'y reviens pas, on en a déjà parlé ici. Jérôme78, merci beaucoup pour ton soutien. Alors, on en est où? Des buts de guerre, des objectifs de guerre de Trump qui ne sont pas très très clairs. Au début, on a cru que Trump visait un renversement du régime, hein, la création de conditions favorables à ce que les Iraniens se soulèvent pour déposer le régime islamique, voilà, annonçant même pendant... quelqu'un nous parlait de la répression. C'est très intéressant, ça. Tout à l'heure, quelqu'un nous disait... moi, je ne confonds pas d'un côté le camp du mal, en gros le régime islamique, la répression monstrueuse, et tu avais raison sur ce point, du peuple, hein, dont on parle jusqu'à 30 000 personnes qui ont été tuées dans les rues. Hein. N'oublions pas que Trump, à ce moment-là, a tenu des propos publics, a fait des déclarations qui disaient « Soulevez-vous, descendez dans la rue, les Iraniens, j'arrive ». Ce qui a été compris comme un appel aux Iraniens à se soulever, à manifester. Ils sont descendus dans la rue, ils ont été massacrés. Un jour, il faudra poser la question de la responsabilité de Trump dans cette histoire. Voilà. Tout ce que je dis là, tu peux le vérifier. Ce sont des faits, ce sont des infos, ce sont des déclarations. Tu peux voir les timings. Tu peux voir les timings. Alors, où en est Trump de ces buts de guerre? Trump semble ne pas avoir renoncé à son rêve de voir le peuple renverser lui-même le régime des Mollahs. Il a décrit les Iraniens comme prêts à souffrir pour atteindre ce but. Plus tôt lundi, il révélait que des armes avaient été envoyées en nombre par les États-Unis à destination des manifestants, mais qu'elles n'avaient pas atteint la population, dit-il. Alors, où sont ces armes? Trump, deux points ouvrés les guillemets, les gens à qui nous les avons envoyées les ont gardées pour eux. Hein, a déploré Trump, qui s'est dit très en colère contre un certain groupe. Voilà. La veille, il avait nommé ce groupe, voilà, les Kurdes. Pendant ce temps, Israël a poursuivi ses frappes sur l'Iran et a ajouté deux noms à son tableau de chasse des dirigeants iraniens éliminés. Majid Kadami, chef du renseignement des gardiens de la révolution, Ajer Bakri, commandant de la force Al-Quds, corps d'élite chargé des opérations à l'étranger. Israël est plus fort que jamais, l'Iran plus affaibli que jamais, a claironné Benjamin Netanyahou à la veille de l'enfer promis à plus de 90 millions d'Iraniens. Cet ultimatum de Trump, il expire ce soir. Voilà. Donc, je donne rendez-vous demain matin. Est-ce que cet ultimatum, est-ce qu'on va, on va voir la menace de Trump mise à exécution? Est-ce qu'il va être à nouveau repoussé? Est-ce qu'il va être annulé? Rendez-vous demain matin pour en parler. Voilà. Je vous lis un petit peu et on enchaîne. On n'entend plus parler du fils du chat d'ailleurs. Ben, tu as raison. Les médias s'interrogeaient il y a quelques jours du fait qu'on ne l'avait pas vu physiquement depuis les frappes qui ont visé sa famille et qui a tué son père. Oh putain, tu parles du fils du chat. Pardon, je crois que tu parles du fils de l'ayatollah Khamenei. Pardon, excuse-moi, parce que ça c'est un vrai mystère. Le fils de l'ayatollah Khamenei, qui est le nouveau leader, le nouveau guide suprême, sauf erreur de ma part, on ne l'a toujours pas vu physiquement. Hein. Donc là, il y a une question sur son état physique, quoi. Quant au fils du chat, oui, t'as raison, on n'entend pas plus parler.
Ouais,
c'est vrai. Le fils de l'ancien chat, la monarchie au pouvoir, avant 79. Ouais. Bonne remarque, on n'en parle plus du tout. Je vois que certains qui me disent, qui me citent des sources britanniques, des sources d'actu britanniques, comme quoi il serait inconscient ou dans le coma. Ok. C'est horrible, me dit Jack Whistler, on dirait un coup de poker à 90 millions de vies. Merci Clément. Merci Sugar pour les 30 secondes. Voilà. Ce soir, on en saura un peu plus. Ouais, on en parlera demain matin. Tu as raison, ouais. Actarus dit, on n'entend plus parler du fils du chat depuis que Trump a dit de lui qu'il n'était pas une option pour reprendre la direction du pays. C'est vrai. Ok. Alors, conséquence, ben, chez nous, notamment en Europe, la hausse des prix du carburant. Je sais pas ce qu'on va mettre sur YouTube d'ailleurs. J'ai pas réfléchi. Peut-être la lune. Tiens, vous savez quoi? On mettra la lune sur YouTube. Hein? C'est intéressant parce que l'article de Libé est vraiment bien fait. Alors, la hausse des carburants. Je pense que pour ceux qui font des pleins en ce moment, vous vous en êtes rendu compte. Voilà. Donc, il y a un gros dossier dans l'UMA ce matin qui est très carré, qui pose cette question. Qu'est-ce que l'État français peut faire et devrait faire pour aider les Français confrontés à cette hausse du prix des carburants. Donc c'est la une de l'UMA. Le Cornu bloque sur les prix. Pourquoi? Parce que le journal nous explique que le Premier ministre refuse de s'attaquer à la flambée de la facture à la pompe, alors que de nombreux salariés sont pris à la gorge. La gauche, elle, appelle à plafonner les tarifs. Depuis quelques jours, je vous dis, les caisses de l'État sont vides, la dette est gigantesque, la charge de la dette, les intérêts qu'on doit payer pour notre endettement explose et en plus les taux d'intérêt remontent. Voilà, l'État ne cesse de dire que les caisses sont vides, il n'y a plus d'argent. Et en cas de crise économique, ce serait très compliqué de soutenir la population française du fait de cette situation financière alors que le déficit a explosé. En tout cas, ça c'est la réponse du gouvernement. Lisons maintenant le dossier de l'UMA qui, vous allez le voir, lui appelle au contraire à des mesures ciblées pour une partie de la population. Carburant, le cornu joue la montre au détriment des salariés, estime l'UMA. Le gouvernement traîne à présenter de nouvelles mesures d'aide ciblées, peut-être en attendant que éventuellement la guerre s'arrête, hein, que les prix s'apaisent. Alors que de nombreux travailleurs laissés sur le bord de la route sont pris à la gorge par la hausse des tarifs à la pompe, la gauche l'exhorte pourtant à mettre en place un blocage des prix. On va se pencher justement sur les différentes mesures, c'est là où le dossier de l'UMA est intéressant. Que pourrait prendre le gouvernement éventuellement. Face à la fièvre sociale qui grimpe aussi vite que les prix à la pompe, le gouvernement donne le sentiment de naviguer à vue. L'exécutif, bon à mon avis, il navigue pas à vue, il joue le temps en espérant que la guerre s'arrête. L'exécutif devait pourtant annoncer une nouvelle salve de mesures d'aide aux professions les plus concernées par la flambée des carburants, mais lundi, il n'y avait toujours rien dans les tuyaux. Depuis le début de l'attaque américano-israélienne sur l'Iran, le gouvernement fait le pari d'un conflit court, c'est ce que je vous disais, qui ne l'obligera pas à mettre la main au porte-monnaie ou à prendre des mesures drastiques. Ouais, tout à fait, Joliot, tu as raison. Le spectre du choc pétrolier de 73, qui avait plongé les économies occidentales dans une interminable crise économique, la plupart d'entre vous, vous êtes trop jeunes pour avoir connu ça, plane dans les esprits, d'autant que c'est l'exécutif lui-même qui en a réactivé le souvenir par l'intermédiaire du ministre de l'économie, qui a un petit peu gaffé, estime certains, en disant « c'est un choc pétrolier », lâchait Roland Lescure à l'Assemblée le 24 mars. L'hypothèse d'une crise passagère n'est malheureusement plus d'actualité. Tollé général, rétro-pédalage dès le lendemain. Certains ont dû l'accuser de foutre le feu au lac et d'inquiéter les Français. Et il a déclaré « je regrette d'avoir utilisé ce terme, il s'appliquait dans mes mots à la situation internationale, en aucun cas à la situation française ». Au-delà de ce revirement qui accentue l'impression d'un flottement, Roland Lescure avait-il raison ? Pour François Perrin, pardon, Francis Perrin comme... Non. Comme l'acteur ? C'est drôle. Pardon, c'est un petit plaisir. Francis Perrin ! Incroyable, Francis Perrin, j'adore, moi. Alors, c'est pas le même. Donc, pour Francis Perrin, directeur de recherche à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, trois conditions doivent être réunies pour qu'on puisse parler d'un choc pétrolier. Un, hausse des prix forte et brutale, bon, ça, c'est OK, et qui dure dans le temps. A priori, sur les deux premiers points, on y est, hein, explique-t-il. Le 27 février, on a un baril de pétrole qui est à 73$. Le 9 mars, on passait les 100$, on navigue depuis entre 110 et 115. En revanche, la durée, on n'y est pas encore, pas les macarons, mais la durée de cette crise, reste à savoir combien de temps les prix vont rester à ce niveau. Aujourd'hui, le détroit d'Ormuz, par lequel transite, vous le savez, 20% de la consommation mondiale de pétrole, 20% des exportations de gaz naturel liquéfié est toujours bloqué. Il y a quelques navires qui passent selon le bon vouloir de l'Iran. Salut de Trollman, bon sport. Cependant, même si la guerre s'arrêtait demain, Oui, tu as raison en plus, fois jaune. Dans les précédents chocs pétroliers, le prix du baril faisait fois 5. Il y a aussi une question d'intensité, tu as raison. Même si la guerre s'arrêtait demain, ce qui semble improbable, et que le détroit était à nouveau navigable, il y a fort à parier que les dégâts provoqués pendant le conflit continueront à produire des effets durant des mois. La troisième condition, c'est la durée. Attendez, j'ai pas été assez clair. La première condition, c'est une hausse des prix forte. La deuxième, c'est durable. La première, c'est forte. La deuxième, c'est brutale. Voilà. Donc forte, importante, brutale, rapide et qui dure dans le temps. La troisième, c'était la durée. J'ai pas été assez clair. Donc même si des tankers et des méthaniers recommencent à circuler dans le détroit, il faudra du temps pour réparer les installations énergétiques endommagées par les frappes, notamment dans les pays du Golfe, vous le savez. Voilà. Ça va pas repartir comme ça, quoi. Ça pique ça. Hop, 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 hop. Hein. De là, on a une photo pour ceux qui nous écoutent en audio. On a d'une station-service. À Toulouse, le 3 avril, on a un litre de gazole à 2,41€. Voilà. Ah, de suprême gazole. Et de gazole à 2,33€. €2,36, me dit Roi de Clèche en pour lui. Ben, j'en ai à 2,33 là, si tu veux. J'ai vu du 2,45 hier, me dit le comptable. Ouais. MMG, il a réussi à. Il me dit je vois exactement où c'est. Ah, ben ça, c'est la station qui est après l'avenue truc là à droite. Tu vois l'épicerie qui a fermé là ? Ben, c'est pas là. Il faut aller plus loin. Avant le centre commercial là qui a ouvert il y a. Tu te rappelles le nouveau centre commercial là ? C'est juste là. Attention, il faut prendre la bonne bretelle par contre. Voilà, ben, c'est celle-là. À côté du feu rouge, voilà. 2,89€. Il y a quelqu'un qui me dit dans le chat, 2,89€ à côté de chez moi. Alors, vous le disiez à l'instant, et vous êtes très fort et vous avez raison, même si le parallèle avec le choc pétrolier de 73 a peu de sens, puisqu'à l'époque, les prix du baril avaient été multipliés par 4, et les économies occidentales étaient beaucoup plus dépendantes du pétrole qu'aujourd'hui, les prévisionnistes parient néanmoins sur des effets d'ampleur. Hein, c'est effectivement pas des chocs pétroliers aussi violents que ceux qu'on a déjà connus dans le passé, lointain, mais l'économie va quand même être impactée. Pour l'INSEE, la flambée des prix pourrait se traduire en France par un regain d'inflation qui franchirait les 2% au printemps, avec des conséquences sur le porte-monnaie. De nombreux salariés tirent déjà la langue depuis les agriculteurs, hein, pour les tracteurs, vous savez, notamment, hein, pour toutes les machines. Il y a du carburant, bien sûr. Voilà. Les aides à domicile, il y a un très beaucoup de projecteurs sur les aides à domicile. dans l'humanité que je vous lirai tout à l'heure, en passant par les routiers, évidemment. Tout à l'heure, on a été raid par un ami routier. Ou les marins-pêcheurs. Le gouvernement voit donc monter avec angoisse la colère populaire. Le souvenir traumatique du mouvement des Gilets jaunes reste dans les mémoires. Mais se bande pour l'heure à des mesures circonscrites. Il y a eu des mesures. Indemnité carburant pour les pêcheurs. Aide sur le gazole non routier pour les agriculteurs. Aide forfaitaire aux transporteurs routiers. Mis bout à bout, ces dispositifs représentent 130 millions d'euros selon des données rendues publiques le 3 avril. Vendredi soir, Bercy a aussi promis le lancement prochain d'une autre mesure, le prêt flash carburant. Alors le prêt flash carburant, c'est pas tu rentres sur site, tu flashes, tu décales et c'est parti. Le prêt flash carburant, c'est pour les petites entreprises très consommatrices d'essence. Hein. Avec un prêt jusqu'à 50 000 euros, avec un taux d'intérêt de 3,80%. V'là l'aide. Pardon, hein. Qui risque de plomber davantage les PME déjà prises à la gorge. Quelqu'un me disait, en Espagne, moi je paye beaucoup moins cher. J'ai perdu ton message, mais j'ai bien vu. Et quelqu'un me dit à l'instant, mais pourquoi on ne fait pas comme l'Espagne, hein, Pouli. Pourquoi ne pas adopter la même stratégie que l'Espagne? Pourquoi l'Espagne, c'est quoi? C'est un blocage des prix? C'est ça, hein? C'est ça, hein? C'est ça, c'est un blocage des prix, hein? Avec une réduction des taxes sur l'essence. Ok. Ils ont réduit la taxe de l'État. Eh bien, l'UMA en parle. Alors, l'Espagne, gouvernement de gauche, si je ne dis pas de bêtises. Alors, lisons, parce que justement, l'UMA en parle. Hein, parce que l'UMA trouve que les mesures sont insuffisantes. Je vous lis, hein, je vous lis en même temps. Pedro Sanchez, voilà. Claro que si. Si le gouvernement rechigne à faire plus, c'est qu'il reste attaché à son obsession de ramener le déficit public sous la barre des 5% en 2026. En même temps, on a un vrai sujet, hein, de déficit et de charge de la dette, contre 5,1% l'an passé, avec en ligne de mire un très hypothétique 3% à l'horizon 2029. Donc c'est la traduction en propos gouvernementaux de « il n'y a plus de sous ». Merci Lionel Lacroute. Merci pour le soutien. Les oppositions, elles, montent au créneau, faisant valoir l'urgence sociale. L'extrême droite préconise de baisser la TVA sur le carburant. Solution à fois coûteuse pour les pouvoirs publics. Le RN a estimé à 12 milliards d'euros le montant de la baisse. Merci, culotte courte. 1$ pour les profits des pétroliers, qui ne seraient pas mis à contribution, parce que du coup, une baisse de la TVA pour les pétroliers ne ferait aucun effort. Hein, or, l'humanité le souligne, ce sont bien ces derniers, les pétroliers, qui encaissent les dividendes de la crise avec la hausse des marges de raffinage. C'est pour ça que la gauche nous explique l'humanité ce matin. La gauche, entendez, le PCF, Parti communiste et LFI, et certains syndicats comme la CGT plaident pour un blocage des prix du carburant. Donc, si je comprends bien... Attendez, alors l'Espagne, du coup... C'est la TVA qu'ils ont baissé, enfin c'est l'équivalent de la TVA ou pas? Du coup, c'est la proposition du RN, ça. Question. Je vous lis. Sinon, je vais aller chercher. Joker? Ah oui, mais. La TVA? Ah, on va aller vérifier. Que vous voyez, on dit « Ah, l'Espagne, il faut faire comme l'Espagne ». Et puis quand je dis « Mais ils ont fait quoi, l'Espagne ?» Eh ben on l'a pas. Allez, on va aller vérifier. Les taxes, mais quelles taxes? Alors, attends. Espagne. Bah, comme vous me citez tous l'exemple espagnol, bon, il faut aller voir ce qu'ils font. Let's go. 1,51€ le litre de SP95 d'Espagne. Bah, ils ont des prix normaux. Bah oui, mais... non, on a bien compris, mais comment ils font? Mon pruneau, l'Espagne divise par deux la TVA sur les carburants. Voilà, c'est une baisse de la TVA. Voilà. Et Dougie Jones me dit une TVA passée de 21 à 10%. Voilà, c'est ça, tu as raison. Ça coûte 5 milliards. Donc c'est bien une baisse de la TVA. Ok. Alors, donc on revient à notre article. C'est ce que propose le RN, en estimant à 12 milliards le coût de cette baisse de la TVA. Et l'UMA dit, le problème, c'est que ça diminue les recettes de l'État, mais par contre, c'est un joli cadeau aux groupes pétroliers qui, eux, ne sont pas mis à contribution. C'est pour cela que la gauche, explique l'UMA, PCF et LFI, et certains syndicats comme la CGT plaident pour un blocage des prix du carburant, donc c'est autre chose. L'article L410-2 du Code de commerce autorise le gouvernement à bloquer les prix par décret, à condition, donc il y a le cadre, il y a la loi le permet, que le blocage soit limité dans le temps, c'est 6 mois max, et justifié par une situation de crise. Bon, bah là, on y est. À l'été 90, par exemple, ça avait été fait lors de la guerre du Golfe. En 2020, Jean Castex avait également plafonné le prix des masques chirurgicaux et du gel hydraulique, pour qu'il n'y ait pas d'abus. Un décret bloquant les prix du carburant devrait être examiné par le Conseil d'État, mais cela ne constitue pas un obstacle insurmontable. Blablabla, blablabla. Hein ? Voilà. Alors, il y a un constitutionnaliste intéressant qui explique que des acteurs économiques pourraient attaquer cette décision. J'ai dit hydraulique ? Pardon, c'est gel hydroalcoolique. Excusez-moi. Pourrait attaquer cette décision devant le Conseil d'État, donc vous l'avez compris, de plafonnement, en référé suspension, en recours pour excès de pouvoir, s'il s'estime mis en difficulté par le blocage. Parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à vendre à perte. C'est interdit. On voit mal Total Energy attendrir les membres du Conseil d'État en prétextant qu'un blocage des prix le mettrait sur la paille. En revanche, les gérants de stations-service qui doivent acheter les produits raffinés au prix, eux, du marché, mettent en avant une santé économique déjà chancelante avant la crise. La très inégale répartition des marges sur l'ensemble de la chaîne de valeur ne laisse pas indifférents les promoteurs d'un blocage. Il ne faut pas seulement plafonner le prix de vente aux consommateurs. Ah, c'est dans l'article, la coquille ? Ah oui, c'est vrai, c'est l'Humanité qui parle de gel hydraulique. C'est drôle. Et moi, bêtement, je lis. Donc, il ne faut pas seulement plafonner le prix de vente aux consommateurs, mais plafonner aussi le prix de vente, en gros, des pétroliers vers les distributeurs, dit Sophie Binet de la CGT. Mais c'est possible, ça, ou pas ? Elle dit, le problème, ce sont les marges des pétroliers. Face à la flambée des profits, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Autriche, le Portugal réclament la mise en place d'une taxe sur les bénéfices exceptionnels des entreprises de l'énergie. Pas la France qui demande à la Commission européenne une simple enquête sur les marges de raffinage pour s'assurer qu'il n'y a pas d'abus. Voilà. En tout cas, voilà, on est allé voir l'exemple espagnol. La question est de savoir si les finances françaises de l'État français le permettent. Je vous lis. Il y a patate poulet qui nous dit, si tu mets une TVA normale jusqu'à 1,70€ par exemple le litre, et que tu mets une TVA faible, genre 5,5 de 1,70€ à au-delà, cela permettrait de réduire la facture du consommateur en permettant à l'État de ne pas trop perdre d'argent. Je dis une bêtise, ça ne me semble pas une bêtise. Ça ne me semble pas une bêtise. Vous lire. En ce moment, l'État augmente ses recettes puisque c'est un pourcentage de ce qu'on paye. Je me trompe, tu te trompes pas. La TVA sur le carburant augmente les recettes pour l'État. Tu as raison. À minima, on pourrait estimer que la hausse des que l'État pourrait abandonner son ce qu'il gagne en plus, quoi. À minima. Je vous lis. Les gens en voiture électrique mangent des pop-corn actuellement, me dit Fléau. Bah, dans la presse, on lit beaucoup d'articles sur les concessionnaires auto qui disent le regard sur la voiture électrique est en train de changer très fort en France. Ah, c'est pas faux, à Crocaiseur me dit augmentation des recettes, mais sans doute une baisse de la consommation sur d'autres secteurs. Les ménages obligés de se serrer la ceinture, on va en parler dans un instant, pour faire leur plein d'essence. Cet argent, ils ne vont pas le dépenser ailleurs sur des produits par ailleurs également taxés à la TVA. Pas bête. Merci Lucky 13. Merci Jouboul 13. Oh, on a Jouboul 13 et Lucky 13. Incroyable. Je vous lis. Ah, et Serbeck me dit, oui, l'État augmente la part de recettes, mais les volumes de vente diminuent. Ouais. Ah, c'est intéressant. Vous voyez, dès qu'on réfléchit un petit peu, on se rend compte que rien n'est simple, quoi. D'où le calcul du RN, d'ailleurs, hein, qui dit, nous, on veut baisser la TVA et ça va coûter 12 milliards, quoi. Bonjour tout le monde. Sinon, plutôt que de baisser le prix des carburants qui bénéficierait autant aux personnes en difficulté qu'aux personnes aisées, ce qui est un des soucis, effectivement, dans le passé, quand ça a été fait, bisous magique pour le cœur étien, qui revient de chez le dentiste. Dans le passé, quand ça a été fait, on s'est rendu compte, effectivement, que bah, du coup, ça avait permis d'aider sur beaucoup plus les ménages aisés, bien sûr. Ouais. Ne vaudrait-il pas mieux aider les foyers en difficulté? On va parler des aides à domicile dans un instant. C'est une piste. Dans le passé, ça a été fait, ça aussi, hein, une aide, une prime, mais qui vise les foyers les plus, surtout les foyers les plus modestes. Ça me semble pertinent. « 28% des ventes de voitures neuves sont des électriques en mars, full électrique. » Jolioc a raison, j'ai vu ce chiffre. C'est beaucoup. Salut Chasson d'or, Granola Forever. Mais je comprends pas pourquoi vous dites que la baisse de la TVA augmente les marges des entreprises. Personne ne dit ça dans le chat, Taurus. Elle ne compte jamais la TVA dans les recettes puisque c'est directement reversé à l'État. Non, non. Quand un pétrolier, par exemple, comme bon, on parlait de Total, mais bref, quand un pétrolier voit le produit qu'il vend pour des raisons de cours mondial augmenter et que sa marge à lui sur le produit reste la même, bah, sa recette sur ce produit augmente. Donc, rien à voir avec la TVA. Le pourcentage de marge, si tu maintiens le pourcentage de marge, un pourcentage de marge appliqué à un produit qui vaut plus cher, tes revenus augmentent, quoi. À condition que la consommation ne baisse pas, de carburant, bien sûr. Après, en carburant, t'as un public qui est un peu captif, dont certains ont quand même besoin de rouler, quoi. Bon, on aura l'occasion d'en reparler. En tout cas, le dossier Luma est plutôt bien fait. Est-ce que j'ai tout lu d'ailleurs? Je vous ai pas tout lu là. Attends. Ah si. Si. Ok. En tout cas, je vois beaucoup de. Si j'avais su, je vous aurais mis ça sur pour YouTube parce qu'il y a beaucoup de réactions. J'aurais dû faire ça. C'est pas grave, on mettra la lune. Ah, quoique, Mathieu, je vais te faire un. Je vais te faire un shout-out. Ouais, je vais faire un shout-out. Je vais tricher, je vais tricher. Je vais faire un petit bonjour à nos amis YouTube à la fin. Désolé. Et Mathieu le mettra au début. Ok? Parce que je vois vraiment que je me cale sur la première page et tout. Ah, le tricheur. Parce qu'en fait, je vois que ce sujet, quand même, vous intéresse beaucoup. Ok, c'est parti. 3. Attends, est-ce qu'il a une ou pas? Ouais. 3. Ouais, je vous mens. Je vous mens. 3, 4. Amis de YouTube, bonjour. Vous êtes dans la matinée Étienne, la revue de presse, comme chaque matin, sur Twitch. On passe en vue toute l'actualité. Et on voulait partager avec vous, avec les amis de Twitch, cette une de l'humanité sur la hausse des prix du carburant. Voilà. Et les mesures éventuelles que pourrait, selon l'humanité, prendre l'État français pour limiter cette baisse pour les Français. C'est parti. T'as vu? Le chat, il vous ment, c'est un menteur, j'adore. T'as vu? Regardez leur en haut à gauche, il ment. Je vous kiffe. Alors, sujet suivant, et alors, mais directement lié, vous allez voir, un coup de projecteur de l'UMA, bravo à l'UMA, sur la précarité des aides à domicile. Voilà. Et qui ont souvent besoin de leur voiture justement pour aller d'une personne à une autre. Alors, ça parle de carburant, mais ça parle surtout de la précarité gigantesque de ces travailleurs et de ces travailleuses. Ce sont souvent des femmes. On a le témoignage d'une femme, et l'article éclaire vraiment cette situation. Pour certaines d'entre vous, travailler aujourd'hui coûte de l'argent. Dans le secteur de l'aide à domicile, les prix du carburant catalysent la colère d'une profession sous-payée, déconsidérée. En témoigne le succès d'une pétition lancée par Manuela Cabo-Sala, auxiliaire de vie, représentante de CGT, qui a recueilli plus de 50 000 signatures. Lisons. Plus de 25 années d'activité au service des plus fragiles, toujours aucune reconnaissance. Covid, choc pétrolier, les arrêts du service aux personnes sont à chaque fois les oubliés de la crise, déplore-t-elle. Manuela Cabo-Sala, en 2000, elle était trentenaire à l'époque, elle est mère d'une enfant de 6 ans. Elle a rencontré une personne d'une association qui lui a permis d'embrasser ce métier d'auxiliaire de vie. Aujourd'hui, quinquagénaire, elle habite une petite ville du sud-ouest de la France et elle sillonne chaque jour les routes de la Gironde entre Coutras, Saint-Émilion, Saint-André de Cubzac ou encore Saint-Laurent-des-Combes, des dizaines de kilomètres, avalées quotidiennement pour apporter un soutien vital à des personnes âgées, dépendantes ou handicapées, hein, le plus souvent isolées. Sa voiture est un outil de travail indispensable, mais aussi son premier poste de dépense devenu insoutenable. Aujourd'hui, pour certaines d'entre nous, travailler coûte de l'argent, dit-elle. Son employeur peut lui demander de faire 50 km pour 2 heures de travail, car dans sa convention collective, rien ne l'interdit. TFunk33 dans le chat me dit: je suis auxiliaire de vie en alternance. C'est unanime, la situation est de plus en plus compliquée. Depuis 2 semaines, cette déléguée au CGT était à l'origine d'une pétition, donc a déjà recueilli 50 000 signatures. Démarche qui vise à alerter les pouvoirs publics à demander des mesures urgentes face à la situation de celles, je vous le disais, 90% des aides à domicile sont des femmes, dont une majorité élève seule un ou plusieurs enfants, dont les indemnités kilométriques restent figées, tout comme le salaire, souvent en dessous du SMIC, malgré la hausse vertigineuse du carburant. Le déclic a été d'entendre une collègue enceinte m'avouer qu'elle était contrainte de choisir entre mettre de l'essence dans sa voiture ou nourrir ses enfants. Une autre mère de famille aussi m'a dit qu'elle allait démissionner car elle n'avait plus de quoi faire le plein pour aller travailler. Pour elle, la pétition est un cri d'alarme car à l'issue des dernières NAO, la négociation annuelle obligatoire, la direction de notre entreprise a refusé toute augmentation de l'indemnité kilométrique qui nous est versée pour nos déplacements entre bénéficiaires au motif qu'elle avait dû prendre une assurance invalidité d'essai suite à plusieurs accidents. Et leur employeur n'a pas hésité à proposer seulement un centime d'augmentation sur le salaire horaire brut. Un centime. Un centime d'augmentation sur le salaire horaire brut. Salaire horaire brut qui plafonne à peine plus de 12 euros. De quoi rire jaune, grince la représentante des salariés d'une entreprise privée qui emploie 4000 aides à domicile et auxiliaires de vie dans toute la France. Un centime. Par heure. L'entité au travail Manuela, alors ça c'est intéressant, a été rachetée récemment par une start-up tentaculaire créée il y a 10 ans par de jeunes diplômés de grandes écoles. À ses débuts, elle affichait des taux de croissance à 3 chiffres grâce à la mise en place de quoi ? De logiciels de rationalisation des tâches et des plannings et à la suppression des agences physiques. Ces innovations ont permis aux fondateurs de s'imposer comme des champions de la silver economy et de réaliser d'importantes levées de fonds. Aujourd'hui tournée vers la croissance externe, l'entreprise rachète des agences locales à tour de bras où elle applique ses méthodes basées sur l'atomisation des collectifs de travail, la rationalisation des déplacements. Le quotidien de Manuela illustre ses dérives. Elle reçoit chaque semaine son planning par mail, ne sait jamais à l'avance à quoi vont ressembler ses journées. Hein. Google Maps sert de référence à son employeur pour calculer les temps de travail. Absurdité quand on doit chercher un stationnement, souvent payant, dans les villes touristiques, marcher longtemps pour atteindre le domicile du bénéficiaire, ouvrir des portails, attendre que la personne ouvre, dénonce l'auxiliaire de vie. Putain, j'adore le truc. Bah attends, sur Google Maps, là c'est 12 minutes, hein. Tu peux pas en mettre 25. Waouh. Audrey écrit, je suis auxiliaire de vie depuis 2019, aidante familiale. Également, entre salaire précaire et augmentation de l'essence, la situation est compliquée. Merci d'en parler car nous sommes vraiment oubliés. Je le sais, c'est aussi pour ça que je lis cet article. Je le sais. Voilà. C'est un côté invisible de la République que ce métier, qui est un métier essentiel, capital, voilà, sous-payé, sous-considéré, sous-respecté, voilà, oublié, avec des revenus très faibles, voilà, et là, il y a la cerise sur le gâteau, il y a l'augmentation des prix du carburant. Résultat, elle pointe avec jusqu'à 15 minutes de retard sur l'horaire prévu par son employeur, elle compense sur son temps de pause, se nourrit de sandwich dans sa voiture, tandis que ses journées peuvent atteindre 10 heures sans vraie coupure. C'est l'enfer, hein. À cela s'ajoute un profond sentiment d'injustice concernant le non-remboursement intégral des frais de déplacement. Les employeurs facturent 1 euro le kilomètre aux bénéficiaires, mais les salariés n'en récupèrent que 30 à 40 centimes. Quand bien même c'est leur voiture qui s'use, leur essence qui flambe, leur assurance qui augmente quand elles déclarent transporter des personnes pour aller faire des sorties ou des courses dans le cadre pro. Quant aux absences liées aux tempêtes, aux routes impraticables, aux accidents sur la route, elles sont parfois comptées comme des absences injustifiées. Let's go ! Allez ! Aux difficultés organisationnelles s'ajoute la charge du métier, on porte des charges lourdes, on court tout le temps, sans compter qu'il faut gérer la détresse morale des personnes atteintes d'Alzheimer, de Parkinson ou en fin de vie, les familles parfois exigeantes, et assumer des soins qui devraient relever des infirmiers, tant le glissement des tâches est devenu courant. Et certains dans le chat me disent qu'ils connaissent bien ce secteur, cet univers, sans forcément y travailler, hein, et vous me confirmez cette situation, quoi. Tiens, par exemple, Rito Rugeau, j'ai un handicap qui m'oblige à embaucher des auxiliaires de vie tous les jours. Je confirme que l'automatisation des pointages, c'est inhumain. Elles sont sous-payées, sous-considérées. Ma belle-mère fait des ménages en campagne, se déplace en voiture, me dit Rax. Elle travaille littéralement à perte. La boîte leur a proposé 40 centimes par kilomètre et un diplôme. Merci Billy Fisher. Merci Pimnet. Merci Cultosan. Merci à tous les trois. Ce sont ces gens qui font tenir le pays, nous dit notre ami étalon du cul. Joli pseudo, on est d'accord. On est bien d'accord. Et avec des horaires qui changent tout le temps, parfois hachés avec des trous de 1 ou 2 heures qui ne permettent pas de faire autre chose, Archange. Je continue l'article. Et pourtant, malgré cette pénibilité évidente et les troubles musculo-squelettiques dont souffre la quasi-totalité de ces professionnels, leur métier n'est pas reconnu comme tel. Elles ne bénéficient ni d'un départ à la retraite anticipée, ni d'un suivi renforcé par la médecine du travail. Malgré tout, Manuela tient. Parce que, dit-elle, lorsque je me couche le soir, je sais que j'ai fait du bien à quelqu'un. Mais aujourd'hui, cette vocation ne suffit pas à masquer la souffrance. Via sa pétition, la militante CGT demande simplement des conditions de travail dignes, le blocage des prix du carburant et de l'énergie. Bah, est-ce qu'on n'est pas d'accord que pour cette profession, sur présentation d'une carte qui pourrait être une carte professionnelle, il faudrait des aides pour le carburant, à minima, aujourd'hui, hein. Le blocage des prix du carburant et de l'énergie, une revalorisation réelle des salaires, une augmentation des indemnités kilométriques, une révision de la convention collective afin d'en finir avec ces trajets absurdes, non payés, impossibles à anticiper. Pour Manuela, comme pour des milliers d'autres auxiliaires de vie, il est temps de mettre fin à l'invisibilisation de ces professionnels essentiels que l'on remercie, hein, bien sûr, mais que l'on ne paie pas suffisamment. Coucou Alexandra. Je vous lis. Skid me dit, sauf que si tu commences à faire ça, tu seras obligé de le faire pour d'autres. Quid des infirmiers libéraux, par exemple, et infirmières libérales. Et donc, logique qu'ils fassent l'autruche au lieu d'aider. C'est quoi la start-up dont il parle dans l'article ? Elle n'est pas nommée par l'article. Elle n'est pas nommée par l'article, sinon je vous l'aurais nommée. Alors, Serbec me dit cette entreprise, c'est WeHelp. Source Serbec. Qui a racheté OneLa. Serbec, t'as l'air bien informé sur le sujet. Agaldian, dans le chat, j'habite à Marseille, pas la plus petite des villes. Handicapé, j'ai des aides à domicile depuis des années, j'ai connu 3 agents. J'ai tout fait pour trouver une agence qui respecte les droits de ses employés, juste ça déjà, et ça n'existe tout simplement pas dans ma ville. Il n'y a que maltraitance des employés, et pire foutage de gueule, quasiment toutes les agences se montent en association, histoire de maximiser leurs gains. Eh ben. Hein, quoi ? Prenez-vous-en aux influenceurs qui vous ont manipulé contre la voiture électrique, voilà le résultat maintenant. Quoi ? Il y a des influenceurs qui nous ont manipulé contre la voiture électrique ? Qui ça ? Donnez-moi des noms. Merci la tulipe du 69. Merci la tulipe. Hein ? Quoi ? Tu veux dire des lobbies, tu voulais dire. Des lobbies, peut-être. Non, je pense que la personne voulait dire des lobbies. La phrase a du sens si tu remplaces influenceur par lobby. Je pense que c'est ça qu'il voulait dire. Non, parce que je veux dire... Domingo, il a fait une OP. Hey, Squeezie, vas-y. Non, je pense que tu veux dire lobby, je pense. Le lobby des pétroliers, quoi. Je pense, hein. Ok, je vois que certains sont en train de me nommer des OP de certains créateurs de contenu pour des bagnoles thermiques. Ok, donc... okay. J'ai encore mis le doigt dans un truc, moi. Ok. Bon, je vais y aller. Hein. Bonne fin de journée. Non, c'est pas vrai. Voilà. Bon, en tout cas, bravo à l'humanité pour ce dossier. Voilà. Alors, allez, on va respirer un petit peu. Je vous emmène sur la Lune. Hein? Sachant que pour nos amis de YouTube, c'est donc le sujet sur la hausse des prix du carburant qu'on aura mis en avant. Et là, la Lune, on va prendre le temps un petit peu. Alors, c'est ce que je fais le matin. Hein? C'est-à-dire que je lis un peu tous les articles sur un même sujet, puis je vous sélectionne celui qui est le plus clair. Alors, ce matin, il n'y avait pas 1000 articles sur la Lune, d'ailleurs. Cubinito, t'as toutes les infos sur. Si tu penses, si tu tapes point d'exclamation festival, t'auras toutes les infos sur les horaires. Donc, il y en a dans le Figaro, il y en a. Mais il n'y a pas 1000 articles. Et c'est vraiment l'article de Libé qui est le plus intéressant et qui est le plus complet. Non, MMG, on va mettre le carburant sur YouTube. C'est ce que je viens de dire à l'instant. Alors. Bon, pas sur la petite blague de Libé qui aime bien faire des blagues dans les titres, on l'aura compris. Mission spatiale 4, astronautes bien lunés. Le vaisseau Orion d'Artemis 2 a survolé lundi notre satellite naturel à 6500 km d'altitude. Hein, jamais on est allé aussi loin dans l'espace, hein, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises. L'équipage a photographié le disque, donc la Lune, sous toutes ses coutures. Les cratères, les immenses mers de la face cachée de la Lune, hein, ils sont passés de l'autre côté. Voilà. Objectif, éclairer l'histoire géologique de la Lune. Quelqu'un me dit qu'il vient de se manger une pub pour Total Energy avant d'arriver sur le stream. Je n'y suis pour rien. La Lune, on la connaît par cœur, mais sur le papier. Ouais. Des sondes y sont régulièrement envoyées, mises en orbite depuis les années 60 et ont permis de photographier notre satellite naturel sous toutes ses coutures, face visible comme face cachée. On a cartographié tous ces cratères, on connaît assez précisément la composition de sa surface, c'est une chose d'étudier la Lune à distance, ça on sait faire avec le satellite, mais c'en est une autre de la voir de ses propres yeux, hein, des yeux humains. Bon, je ne vois pas ce qui est très intéressant dans cet article. Moi régulièrement je regarde la Lune, hein, avec mes yeux humains. Voilà, et on ne me félicite pas pour autant. Non, blague à part, ce qui est nouveau, c'est qu'effectivement, ils sont passés du côté... C'est la première fois qu'on regarde avec des yeux humains la face cachée de la Lune. C'est-à-dire, comprenez que les astronautes la regardent, quoi. Voilà. Sachant que la Chine a déjà envoyé un truc sur la face cachée. Voilà. Mais, a priori, c'est la première fois que des astronautes voient... Alors, on me dit non. Vas-y. Apollo a déjà fait la face cachée ? Bah, ce matin, j'ai lu les articles qui disaient que c'était... Apollo, il l'avait fait ? Ils avaient déjà fait le tour en orbite ? Ah, c'est la première fois depuis 72. Alors, Diesel me dit, personne ne l'avait fait, il a raison. Ah, bon. Pas avec un grand angle. Oh là, le débat. Plein de journaux disent ça, c'est totalement faux, dit Joe Jordan. Le troisième astronaute de Apollo 11. Voyons, c'est précis. Donc, il y a eu un gars qui l'a fait avant. Donc, c'est une erreur. Eh bien, on l'a corrigé. On est comme ça, let's go. C'est corrigé. C'est la première fois, donc, merci Ericite, nous résume cette actualité. C'est donc la première fois depuis la dernière fois. J'ai lu dans les journaux que c'était pas la première fois que des humains allaient aussi loin. Ah bon ? Bon, donc on arrête cet article, il n'y a rien qui va alors. Alors il y a Uriel qui nous rappelle que tout ça est totalement faux parce que la Lune n'existe pas. Bon, lisons l'article, on verra bien. Ah ! En réalité, il était à 100 km d'altitude, il n'a rien vu. Donc oui, les humains ont bien vu pour la première fois de leurs yeux vus ces zones. Ah. Ils l'ont fait, mais ils l'avaient pas vu en entier. Ah. Ah. Vous inventez donc. Il faisait nuit, j'adore. Je vous kiffe. Let's go. Alors lisons maintenant. Cinq jours après leur décollage depuis la Floride, l'équipage de la mission américaine Artemis II, installé à bord du vaisseau Orion, est enfin arrivé dans le voisinage de l'astre lundi en début de soirée. On va voir les articles. On va voir les infos. Le plan de vol des quatre astronautes, donc trois Américains et un Canadien, si je dis pas de bêtises, prévoyait qu'ils en fassent le tour via un trajet en forme de 8 entre la Terre et la Lune qui prend 10 jours au total. Ils devaient passer derrière la Lune juste une seule fois sans s'y attarder, profitant de son attraction pour reprendre de l'élan et se remettre sur la voie du retour vers la Terre. C'est ce qu'on appelle un survol. La phase de survol a donc commencé officiellement lundi à 20h45 sur le fuseau horaire de Paris, donc hier soir, et devait durer environ 6 heures, donc c'est terminé. Les hublots du vaisseau spatial ont été orientés vers la Lune pour que les astronautes puissent commencer les observations. Ils sont devenus les humains à s'être le plus éloigné de la Terre, battant le record des astronautes d'Apollo 13, de 400 171 km. L'équipe d'experts lunaires de la NASA, l'agence spatiale américaine, leur avait transmis dimanche une liste des lieux d'intérêt à repérer et à photographier en priorité. Parmi eux, la petite mer lunaire, 900 km de diamètre, Marée Orientale avec son cratère d'impact, mais aussi les sites d'alunissage des missions Apollo 12, Apollo 14, le futur également site d'alunissage des missions américaines près du pôle sud. Pour bien commencer ce grand jour, la NASA avait réservé une surprise à son équipage, la diffusion d'un message préenregistré par Jim Lovell, l'un des trois astronautes de la mission Apollo 8 qui avait fait exactement le même tour de Lune en 68. Voilà, on a les infos. Alors, il est mort cet été à 97 ans, mais il avait le temps d'enregistrer son message. Et ils ont pu entendre son message. Alors, je vous passe sur... Je vous lis pas tout. Mardi à 1h du matin, donc c'est derrière nous pour nous, hein, c'est passé, le commandant de la mission de la NASA et ses collègues devaient être au plus proche de la Lune. Ils l'ont survolé à 6543 km, ce qui leur a permis de voir son disque en entier, du pôle nord au pôle sud, là où les équipages Apollo... Ah, bah voilà ! Apollo passait beaucoup plus bas, environ 110 km, et n'embrassait du regard qu'un tout petit bout de la surface lunaire. Donc, pour reprendre les infos du début, c'est la première fois que les astronautes avec leurs yeux humains voient la Lune côté obscur en entier. Bim ! Retour chariot, fin du débat. Par les hublots d'Orion, les astronautes ont vu la lumière du soleil éclairer les reliefs lunaires. Plus la lumière était rasante, plus les ombres étaient marquées, faisant sortir les pics et les creux. Est-ce qu'ils ont réussi à voir l'étoile noire ? Je sais pas. La face cachée de notre satellite a un aspect très différent de sa face visible. Comme on l'a découvert grâce aux photos de la toute première sonde qui en a fait le tour, la soviétique Luna 359, beaucoup plus de cratères, alors que la face visible est plus plate, avec d'immenses mers qui sont en fait d'anciennes coulées de lave. Oui, je dis côté obscur, mais c'est la face cachée, ouais. Bien sûr. Nous ne sommes pas le soleil, bien sûr, vous avez raison. La face cachée, pas le côté obscur, vous avez raison. J'ai un peu confondu avec Star Wars, là. La force, tout ça, tout ça. L'Empire, enfin, je suis parti ailleurs, quoi. Normal, elle se prend tous les astéroïdes, me dit très fier chameau, vous êtes fort. Ils sont forts. Ils sont forts. Durant quelques instants, l'équipage devait même être techniquement spectateur d'une éclipse solaire, car Orion, la Lune et le Soleil étaient parfaitement alignés. Et pour parfaire leur collection de souvenirs bouleversants et de photos mémorables, les astronautes devaient voir un lever de Terre. Waouh ! La planète bleue, minuscule à cause de la distance, apparue à l'horizon de la Lune et qui s'en est détachée progressivement. L'observation de la surface lunaire était au programme de l'équipage d'Artemis au même titre que d'autres expériences scientifiques sur la santé humaine dans un cadre de voyage spatial. Et donc, du côté de la NASA, on explique, Artemis 2 fournit une opportunité unique d'apprécier la Lune du dessus avec un regard humain. Les yeux, les cerveaux sont très sensibles aux changements de couleur, de texture, à d'autres caractéristiques de la surface. L'observation par l'équipage qui aura à l'esprit des questions scientifiques qu'on ne se posait pas à l'époque d'Apollo, pourrait fournir le socle de futures investigations scientifiques sur l'histoire géologique de la Lune. Waouh ! On est à la limite de la poésie. Hein. L'œil humain est un outil magique. S'enthousiasmait Victor Glover, l'un des astronautes de l'équipe avant son départ. C'est tout simplement le meilleur appareil photo qui ait jamais existé. iPhone 17 ou D-Quantity, t'oublies quoi. Salut Fennec, tu me fais rire. Les astronautes sont restés en relation directe avec des chercheurs au sol à Houston, qui manifestement n'ont pas entendu le message « Houston, nous avons un problème » que vous connaissez. Spécialisé dans les cratères de la Lune, sa tectonique, la fameuse danse, vous savez, voilà, ou l'histoire de son volcanisme. C'est un sujet brûlant. On a découvert fin 2024, grâce aux échantillons de roches ramenés par la mission chinoise Chang'e 6, qu'il y avait encore des volcans lunaires en éruption il y a 120 millions d'années. Un autre sujet cristallise les passions depuis quelques années, la présence d'eau sur la Lune. On dit Chang'e, merci beaucoup, Chang'e. Est-ce qu'il y a de l'eau sur la Lune ? Près du pôle sud, de nombreux cratères sont orientés de telle manière qu'ils ne sont jamais éclairés par le soleil. Ils renferment très probablement de la glace d'eau intacte, jamais dégelée depuis des milliards d'années. Cette glace pourrait contenir des molécules organiques, briques élémentaires du vivant déposées sur la Lune par des impacts de comètes et de météorites fréquents il y a 4 milliards d'années, à l'époque que les astronomes appellent le grand bombardement furtif. Attention, moi je trouve qu'on arrive au moment le plus intéressant de ce papier. Ces mêmes bombardements ont touché la jeune Terre, donc nous, enfin avant, mais celle-ci n'a pas gardé la trace de molécules aussi anciennes, alors qu'il y en aurait dans la glace de tardif. Qu'est-ce que je dis ? J'ai dit furtif ? Tardif. Alors qu'il y en aurait dans la glace de la Lune. Donc plutôt que vous faire des glaçons pour l'apéro, eh ben, on aura peut-être des infos sur l'apparition de la vie sur Terre. Tadam ! C'est le climax de l'article. On espère donc trouver dans la glace lunaire des clés de compréhension de l'histoire de la Terre, la formation de ses océans, son habitabilité, les origines de la vie. Enfin, quand mes enfants me demandent à la maison « Papa, d'où vient la vie ? Pourquoi il y a de la vie ? Qu'est-ce qui a créé la première cellule sur Terre ? Bordel ! » Je vais pouvoir leur dire, enfin je vais pouvoir leur dire « T'inquiète, la réponse est dans la Lune. » Dans la glace de la Lune. C'est beau, non ? Ha ! Comme ça, je vais être tranquille, je vais pouvoir passer à autre chose et aller faire mes trucs. J'adore ce truc. C'est passionnant, en vrai. Hein ? Tes enfants ont 55 ans ou quoi ? Non, c'est des petits génies. Voilà. Le dernier, il a 5 semaines, il me pose ce genre de questions. Il me dit, bah alors, par rapport à. Voilà, le son, c'est fou. Je suis dépassé. Anne me dit, des collègues m'ont signalé qu'il y avait d'énormes enjeux économiques sur la Lune pour aller en récupérer les minéraux, les utiliser dans de nouvelles technologies. D'où le fait que la Chine finance ces expéditions. Donc c'est poétique pour le moment, bientôt ça ne sera plus. Waouh, à 5 semaines, il parle d'abiogénèse impressionnant. Je ne sais pas ce que c'est l'abiogénèse, oui, mais il utilise des mots comme ça, un peu compliqués, je ne comprends rien. Ouais. On dit Chan'e, ok. Déesse de la Lune chez les Chinois. Vous êtes trop fort. Ce n'est pas Chan'i, c'est Chan'e. Merci, vous êtes plusieurs à m'avoir corrigé. Pio est en train de faire des recherches de mathématiques avancées avec Cédric Villani. Non, il a arrêté. Villani a jeté l'éponge. Il a dit, je suis dépassé, j'arrête les mathématiques. Eh ouais, ça c'est mes enfants, ça. Non, c'est génial de savoir que peut-être que la clé de la compréhension de comment la, la vie est apparue sur Terre et peut-être dans la glace sur la Lune. C'est ouf, non? Je trouve ça fascinant. Donc c'est pas terminé, attends. Donc il y a ça. Voilà. Rappelons que l'objectif d'un alunissage au pôle sud lunaire, partagé à la fois par les États-Unis, la Chine, les Russes et même les Indiens d'ici 2040, n'est pas motivé que par des intérêts scientifiques. Des réserves d'eau en grande quantité pourraient aussi alimenter les astronautes qui établiraient une base de vie sur la Lune dans quelques années, on en a parlé récemment, et même être transformés en carburant de fusée pour faire de la Lune une possible station d'essence sur le chemin entre la Terre et Mars. Dans quelques années, on parlera de la hausse du prix des carburants sur la Lune. Et on aura des astronautes qui témoigneront dans la presse en disant « c'est le bordel, j'arrive pas à faire le plein ». C'est fascinant. Hein. La science lunaire progresse à pas de géant quand on la pratique sur le terrain. Beaucoup de découvertes récentes ont été faites grâce aux kilos de roches apportées par les astronautes de l'époque Apollo, qui continuent encore aujourd'hui d'être étudiées avec des moyens techniques de plus en plus performants. On se demande par exemple comment la Terre est devenue une planète bleue, couverte d'océans. Une étude publiée fin janvier dans une revue scientifique affirme que l'eau amenée par les bombardements météoritiques n'a pu apporter qu'une faible portion de toute cette eau terrestre, et ceci grâce à l'analyse chimique de poussière lunaire des missions Apollo. Incroyable. J'imagine le prix du club sandwich sur la station de la Lune. Ah bah ça, Jules, ça c'est sûr. T'imagines? Et le mec, il va tenir la seule supérette sur la Lune. Il va se faire plaisir sur les prix. Hein. Non mais attendez, le sandwich triangle. Attends, la DLC dépassée de 2 jours, il a 35€. Eh ouais. Non mais c'est un scandale. Ok. Va dans une autre boutique. Hein? Ha! Putain, ça, c'est un job, hein. Bon, allez, oui, les coûts de transport et tout, tu comprends. Ouais. T'inquiète. C'est vachement intéressant. Bon, voilà. Et de très loin, l'article de Libé est le plus complet ce matin. On a appris plein de choses. Et grâce à vous, j'ai appris plein de choses aussi, parce que quand il y a des bêtises, vous m'avez corrigé. Je vous lis et on enchaîne. C'est une bonne situation, ça pompisse sur la Lune. Oh, oui. J'espère qu'il y aura du Wi-Fi sur la Lune. Ne rigole pas, dans un article, j'ai lu il y a un ou deux jours, on expliquait que la fameuse base lunaire, là, 2036, sans doute un peu plus tard, sera forcément du retard, a priori, il y aura du Wi-Fi, il y aura des satellites autour, je sais pas quoi, qui feront que, on est dans un futur hypothétique, ils auront du Wi-Fi. Ouais. Merci à Calmic, merci aussi Nation. Merci Pierre-Yves. Merci Eucomique. Merci la tulipe du 69, vous êtes incroyable. Merci Billy Fisher. On pourra jouer à Valo. Ouais. Enfin, il y aura, j'ai peur qu'il y ait... Ouais. Ah, si tu joues sur la Lune avec des gens sur la Terre, à Valo, il y aura un petit ping. Hein. Ouais. MMG dit ce qui m'inquiète le plus, c'est l'enjeu scientifique qui deviendrait beaucoup moins intéressant que l'intérêt de coloniser l'espace et le monopoliser pour aller encore plus loin. Ben pourquoi s'inquiéter? À quel moment pourrait-on imaginer que dans le monde dans lequel on vit, les intérêts économiques, financiers, pourraient prendre le pas sur les intérêts scientifiques, l'intérêt même de l'humanité? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Pardon. Qu'est-ce qui, dans le monde d'aujourd'hui, pourrait nous laisser imaginer que des gens, à un moment, vont être plus intéressés par se faire de la thune plutôt que de penser au genre humain? Je vois vraiment pas pourquoi vous dites ça. Hein. C'est exactement comme dit Carillon, je te pique ta blague, c'est lunaire comme question. Hein. Ouais. En fait, là, on est en train de rêver la lune, l'origine de la vie, et en fait, dans 30 ans, on va se rendre compte que ce sera full tunas, quoi. On sera bien déçus. Allez, je voulais encore un petit peu parce que vous semblez quand même bien maîtriser le sujet. En vrai, une base sur la Lune, ça a de la gueule quand même. Hein. Une base de la Lune. Merci Zouf. Merci Zouf, W3. Tu seras le premier à faire un stream depuis la Lune pour le pognon Samuel, pas à nous, dit Yaourt Nature. Vas-y, vas-y, vas-y. Merci Gogo, merci pour le waouh 30e mois. Yannick Omanga dit je pense que ce sera pas Samuel Etienne le premier, ce sera Mister Beast. Pas impossible ça par contre. Hein. Allez, on va enchaîner. Oh. Tu imagines être le premier streamer lunaire, le premier à qui on dit rend l'argent de la lune, la classe. Mister Beast, 1 million de dollars si tu marches 5 minutes sur la lune sans combinaison, let's go. Incroyable. Ils vont le faire, hein. Ils vont le faire. Avec Anime, ouais. Incroyable. Allez, je vous emmène où maintenant? Ah non, mais je suis dans l'humain, je suis où là? Ah non, faut qu'on parle de ça aussi. Je surveille l'heure, c'est bon, on est dans les temps. Alors, on va revenir sur la manifestation contre le racisme. Donc on quitte la Lune, ok, hein, on fait le plein, voilà, et on revient sur Terre, voilà. Et on va parler de cette manifestation contre le racisme. À Saint-Denis, c'était samedi. Sauf que hier il n'y avait pas beaucoup de journaux, voilà, et dimanche pas beaucoup non plus. Donc c'est pas grave, on est mardi, on en parle. Nous refusons de nous taire, plus d'une dizaine de milliers de personnes se sont rassemblées samedi à Saint-Denis pour soutenir le maire Bali Bagayoko, victime d'une déferlante raciste depuis son élection. Adama n'en revient pas, le Dionysien, donc Dionysien c'est habitant de Saint-Denis je crois, hein, de 25 ans, ne peut pas s'approcher de sa mairie, c'est impossible d'avancer, il y a trop de monde, c'est très beau, sourit-il autour de lui, des pancartes non à la haine, non au racisme, ou encore de plus de Bali, moins de fachos. L'hôtel de ville de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis donc, n'est pas encore en vue, mais les clameurs provenant de son esplanade se font entendre. Résistance, chante une foule de plus d'une dizaine de milliers de personnes en ce début de rassemblement contre, je cite, le racisme, les discriminations, la haine de l'autre, contre l'islamophobie, l'antisémitisme, contre l'extrême droite et la xénophobie. Manifestation pourquoi ? En soutien au maire de la ville, au tout nouveau maire de la ville, hein, M. Bagayoko, victime depuis son élection, vous le savez peut-être, au premier tour des municipales le 15 mars, d'une déferlante raciste, comme d'autres élus de villes populaires. Sur CNews, il a été comparé au grand singe, ou à un mâle dominant d'une tribu primitive. Si ça vous intéresse, j'ai cru voir passer sur Mediapart un article comme quoi CNews serait bien dans le collimateur de l'ARCOM depuis ses propos tenus sur son antenne. Hein, c'est sur Mediapart. Lorsqu'il a évoqué la ville des rois et du peuple vivant, hein, c'est une phrase qu'on évoque souvent à propos de Saint-Denis, hein, expression du poète Jean Marcenac pour désigner Saint-Denis, le soir de sa victoire, des journalistes lui ont demandé pourquoi il avait parlé de la ville des Noirs. Vous savez que des journalistes ont cru entendre le nouveau maire donc parler de la ville des Noirs, là où il avait dit la ville des rois et du peuple vivant. Voilà. Donc, nous venons pour le soutenir, mais aussi pour dire que nous refusons de nous taire, explique Houssine, 62 ans. Ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a des... je crois même qu'il y a une journaliste qui l'a interrogé en lui disant « Mais pourquoi vous avez dit ça ?» Bon, vous avez les... Je pense que vous connaissez les infos. Nous venons pour le soutenir, mais aussi pour dire que nous refusons de nous taire, explique Houssine, 62 ans, venu d'Amiens. Être là, c'est soutenir la République, le respect de la démocratie. des journalistes et des politiques font passer ces maires pour des communautaristes, des intégristes, parce qu'ils ne ressemblent pas à ce que doit être pour eux un élu français. Entre la mairie et la basilique, une quinzaine de militants associatifs, syndicalistes et d'élus prennent la parole pour exprimer leur inquiétude face à la montée d'un racisme décomplexé, mais aussi un espoir de voir les lignes bouger. Aujourd'hui, nous sommes extrêmement nombreux, pas tant pour moi, mais pour tous les premiers de corvée qui luttent contre le racisme. Vous faites la fierté de la France, clame le nouveau maire, Bali Bagayoko, le dernier à intervenir. Dénonçant des médias qui font prospérer l'industrie du racisme, des institutions défaillantes, parfois même complices, il demande la création d'un réseau d'élus qui portent en leur sein la lutte impérieuse contre le racisme pour agir et apporter des réponses concrètes. Un appel à résister, à ne pas se taire face à un racisme autorisé par des chaînes comme CNews et légitimé par la montée de l'extrême droite, mais aussi la tolérance d'autres partis, estime Sarah Ingénieur. Donc ça n'est pas Sarah Knafo, c'est une autre Sarah. Elle-même explique subir le racisme quotidiennement par des micro-agressions, mais aussi des barrières qui se ferment au travail. C'est une question de couleur de peau, mais aussi de mépris de classe, ajoute Abdul Salam, 38 ans. Pour eux, Bali Bagayoko, comme moi et tant d'autres, nous ne sommes pas seulement noirs ou musulmans, ils nous attaquent aussi parce que nous sommes banlieusards, issus de familles pauvres, et à ce titre, nous n'aurions pas les bonnes compétences pour accéder aux responsabilités. Au micro, le député communiste Stéphane Peu rappelle que d'ici à Saint-Denis, nous avons toujours conjugué la défense des intérêts de la classe ouvrière et la lutte contre le racisme et le fascisme. C'est l'unité de notre classe qui permet les grandes conquêtes sociales, soutient encore Kamel Brami, secrétaire général de l'Union départementale CGT de Seine-Saint-Denis. Le racisme est une stratégie des capitalistes. Pour dominer et exploiter, ils craignent notre force, plurielle, puissant, à l'image d'aujourd'hui. Une heure après le début du rassemblement, Jean-François, enseignant parisien, arrive un petit peu en sueur. Il a eu du mal à parvenir jusqu'ici. La ligne de métro et plein de lignes de bus étaient fermées, dit-il. Mais c'est bien, nous petits parisiens privilégiés, on se rend compte de ce que c'est de vivre en banlieue. Ils auraient dû faire la marche à Neuilly. Là-bas, ils n'ont jamais de problème de transport, ironise Mathilde, drapeau du mouvement de la jeunesse communiste sous le bras. Pour beaucoup, ce rassemblement est justement celui d'une certaine fierté banlieusarde. Selon les mots de Lassana, habitant d'une cité du Blanc-Mesnil, où Demba Traoré l'a emporté le 22 mars, beaucoup deviennent fous en voyant Demba, Bali et les autres parce qu'ils représentent une banlieue qu'ils ne connaissent pas, qui leur fait peur, développe l'éducateur spécialisé. Beaucoup trop de gens en France, et surtout à la tête des médias et de l'État, aiment les gens de banlieue quand ils nous font gagner des matchs de foot, quand ils viennent faire le ménage dans les bureaux, mais c'est tout. Le reste du temps, on est vu comme de potentiels dangers. Ça ne m'étonne pas que sur CNews, ils parlent de Bali Bagayoko comme d'un singe. Pour eux, les personnes racialisées de cité sont comme des animaux en cage qu'il faut surveiller. Pour autant, et contrairement à ce que prétendent la droite et son extrême, le mépris renvoyé au visage des classes populaires héritières de l'immigration ou de la colonisation ne s'est pas transformé en haine de la France. Ici, on aime tous la France. C'est pour ça qu'on se mobilise pour ne pas laisser le racisme gangrène le pays. C'est pour ça qu'on veut avoir notre mot à dire pour construire la société, ajoute Lassana. Depuis la tribune, la communiste Sophia Boutry, élue à Saint-Denis, directrice de la fête de l'UMA, abonde « Nous voulons construire une France dans laquelle personne n'aura à prouver qu'il y a sa place, quelle que soit sa religion, son orientation sexuelle, sa couleur de peau. » Avant de laisser le micro à HK, et ce fameux « on lâche rien », alors je plaide l'ignorance, HK est sans doute un artiste, rappeur, je sais pas. Bali Bagayoko a conclu par une Marseillaise, pas question de laisser notre hymne national à ceux qui le piétinent. Cet attachement à la France et à la République revient quasi systématiquement dans la parole des manifestants qui étaient présents à Saint-Denis. Amata, 70 ans, dont 30 vécus à Saint-Denis, observe le rassemblement dans un coin discrètement. Elle ne souhaite pas se livrer, se cache même en riant pour signifier qu'elle ne souhaite pas répondre aux questions. Je n'ai qu'une chose à dire, liberté, égalité, fraternité, nul besoin d'un long discours. Article de Florent Ledu dans l'Humain. Je vous lis, pardon, j'ai été long, mais je voulais lire le papier. Je ne suis pas votant LFI ni même de gauche, me dit Desmond Smile, mais quelle classe ce Bagayoko et quelle honte toutes les attaques qu'il subit. Je vous lis, je remonte le chat. Zebda le disait déjà il y a 30 ans, nous dit le Squirrel, et rien n'a changé. Ils aiment Noah, mais il faut qu'ils gagnent des tournois. Ils aiment Boli, mais ils n'ont rien à Boli. Joli. Est-ce que le président Macron et le gouvernement ont pris la parole à ce sujet? Je n'ai pas suivi, mais il me semble qu'ils sont bien silencieux. À ma connaissance, non, mais je me trompe peut-être. Je n'ai pas vu de réaction du gouvernement et du président de la République sur ce sujet. Je me trompe peut-être. À qui task CG? Merci pour le Prime. Merci Gogo. Merci Zouf. Je ne crois pas. Je vous lis. Petit Fred, j'habite Saint-Denis, je n'ai pas voté pour le maire actuel. J'avoue que le discours de LFI n'est pas ma tasse de thé du tout, mais ce racisme est insupportable. C'est là où tu vois qu'il y a deux poids, deux mesures, me dit Dewi. Zemmour se fait insulter. Macron appelle. Bagayoko se fait insulter. Hop, j'ai perdu ton message. Je le retrouve. Macron reste silencieux. Alors, Réméor me dit, il y a eu une condamnation très claire du ministre de l'Intérieur et du Premier ministre. Je vous lis. Pardon à ceux qui nous écoutent en audio, mais je vois des commentaires très intéressants dans le chat, donc je suis en train de me faire plaisir et je vous lis. Du coup, je vois que j'ai bien fait de vous parler de cet article. Ça aurait été dommage de passer ça sous silence, quoi. Comme j'ai pas fait de revue de presse samedi, ni dimanche d'ailleurs. Alors, condamnation pas claire du tout. Donc tu parles notamment du Premier ministre. Ils ont tapé sur LFI au lieu de se lever contre le racisme. Ben attendez, je fais la recherche. Bagayoko, Premier ministre. Parce que j'ai pas la rêve de ce qui s'est dit. Est-ce que... Ok, j'ai une déclaration de Monsieur Lecornu, le Premier ministre... Actuel, propos raciste visant Bali et Bagayoko, la banalisation du mal et du racisme doit être combattue sans relâche. Appelle Sébastien Lecornu. Devant les députés, le Premier ministre ainsi que le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez ont exprimé leur condamnation après des propos racistes tenus sur CNews visant le nouveau maire insoumis de Saint-Denis, M. Bagayoko. Le gouvernement dit étudier la possibilité de poursuites pénales envers ses auteurs. Alors, est-ce que ça parle de LFI? J'ai pas... Je vois pas de... Peut-être plus loin, mais... Je vois dans cette déclaration, je vois pas de critique d'LFI. Pas là. « Il manque peut-être une partie. Il manque une petite partie. Ce n'est qu'une partie, ce n'est qu'une partie. Ok. On n'aurait pas la vidéo quelque part? Allez, 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 vous avez raison. Prenons le temps, on est sur Twitch.
Dans cette ambiance malsaine, il faut bien le reconnaître et le souligner, je pense qu'il faut toujours revenir avec des principes simples, des principes clairs, les principes de la République. Et je le disais en d'autres circonstances il y a de cela quelques semaines, et nous y sommes, il faut toujours, et je sais que vous le faites, toujours refuser la violence dans le débat public, la violence physique, la violence verbale. Le racisme n'est pas une opinion, comme l'antisémitisme, comme l'homophobie, et donc par définition, il tombe sur le coup de la loi. Mais avant de tomber sur le coup de la loi, il tombe aussi sur le coup d'une responsabilité politique collective qui nous revient de rappeler ici sans relâche, nous devons refuser toute forme de violence dans le débat politique et dans le débat public. Et la manière dont s'est passée de manière globale et générale les élections municipales ne sont pas une réussite collective. Ensuite, il y a la responsabilité individuelle. Le maire de Saint-Denis est un agent de l'État. Comme maire, il est agent de l'État. Et donc, il mérite une protection particulière. Et ça, nous le faisons pour les maires, mais je souhaite que nous allions plus loin. Et dès lors qu'il aura porté plainte, monsieur le président Stéphane Peu, je demanderai au préfet de Seine-Saint-Denis de se constituer partie civile à ses côtés, car une fois de plus, le racisme n'est pas une opinion, et donc c'est à la justice de dire le droit, et non pas au gouvernement, cela va sans dire, et c'est à l'autorité judiciaire, le parquet, puis le siège, d'établir les faits. Mais de cela aussi, le maire est un agent de l'État et donc lui aussi doit veiller au respect du droit dans la commune. Et ça, c'est évidemment pas la réponse à votre... Ce n'est pas la réponse au président Peu, mais au député Coquerel tout à l'heure, qui a tenté de faire croire qu'il y aurait une suspicion de racisme de la part du gouvernement de la République. Et non, ce n'est pas vrai, on ne peut pas dire cela, c'est un mensonge. Et vous participez justement, en disant cela, à la banalisation du mal. Et cette banalisation du mal et du racisme doit être combattue avec la même force et sans relâche.
Merci, monsieur le Premier ministre.
Ok, alors... Là, on a l'intégralité de la réaction de Le Cornu. Et pour le coup, je ne vois pas la condamnation de LFI à la fin. C'est juste que l'accusation de Coquerel, donc député LFI à l'Assemblée, comme quoi le gouvernement serait raciste, il dit « ben non, c'est pas vrai ». Voilà, bon. Ok. Bon, c'est intéressant d'avoir l'extrait qui, pour le coup, n'a pas été coupé, vous l'avez vu, quoi. Ce qu'il dit, c'est la base, hein, rien à applaudir. Oui, mais enfin, bon, bière pour Dieu que j'adore, comme tu le sais, la base pour certains pays, certains partis dans notre pays, que je ne nommerai pas, elle est oubliée depuis longtemps. Donc, hein. Il ne l'aurait pas fait, on lui aurait reproché. N'est-ce pas? Mon pays. Ah, tu m'énerves juste à côté. Ah! Voilà, un sujet dont je voulais vous parler aussi ce matin. Quelle heure il est? On est dans les temps toujours. Voilà. C'est l'endométriose. Voilà. Et là, c'est un sujet qui est sous-exposé. Dans notre pays, dans les médias aussi, alors moins qu'il y a quelques années, on en parle de plus en plus, mais voilà. On a encore pour beaucoup de femmes des situations intolérables, de flou, de diagnostics très tardifs, sans compter qu'il n'y a pas de traitement à ce jour et que, si j'ai bien compris, on ne traite que les symptômes. Donc merci au Figaro pour ce papier qui est assez complet. Endométriose, toujours un très long chemin avant le diagnostic, article dans lequel on apprend que le temps moyen de diagnostic entre les premiers symptômes et le diagnostic d'une endométriose pour une femme, c'est 10 ans. Voilà. Toujours un long chemin avant le diagnostic, nous dit le Figaro ce matin. Entre l'apparition des premiers symptômes et le diagnostic, il existe un délai moyen de 10 ans. Voilà. C'est surréaliste. Il y a petite Pierre qui dit « Ma meilleure amie a eu un parcours de diagnostic de 10 ans, un fléau pour sa santé mentale. » Eh ben, c'est la moyenne. 10 ans. Parfois, c'est un peu moins. Parfois, ça veut dire que c'est plus. Hein. Ah. Alors, une bonne nouvelle, malgré tout, parfois, il y en a. L'étude de l'endométriose est devenue obligatoire pour les étudiants médecins depuis 2020. Les femmes qui en sont atteintes ne savent pas toujours en reconnaître les signes extrêmement variés, pour cause, elles sont plutôt pas très bien accompagnées par la société sur le sujet. Article de Madeleine Métayer dans Le Figaro, lisons, je pense qu'on va apprendre plein de choses pour ceux comme moi qui connaissent mal le sujet. Seulement depuis 2020, ouais, ça aurait pu aussi être pas du tout, c'est toujours le même sujet. Laure, 41, a eu ses règles à 12 ans et dès le départ ou presque, a ressenti des effets secondaires éprouvants. Donc ça nous fait presque 30 ans de douleur. Des problèmes digestifs, une fatigue permanente, des saignements très importants qui duraient une semaine pendant des années. Elle a consulté les médecins, pas de réponse. 30 ans. Jusqu'en 2020, ou après une IRM, elle entend, vous avez de l'endométriose autour de l'utérus et des ligaments utérosacrés. Des cellules semblables à l'endomètre, la paroi qui tapisse l'utérus, et qui s'évacuent logiquement pendant les règles, sont présentes sur ces organes et s'enflamment à chaque cycle. Rose, 33 ans, a eu ses règles à 12 ans. Voilà. Donc, là, on est sur 20 ans de douleur. Et pendant des années, elle s'est contentée d'être d'une humeur de chien et nauséeuse 3 jours dans le mois. Elle a 23 ans quand apparaissent des spasmes qui traversent son dos, durant lesquels elle doit parfois attraper le rebord d'une table pour ne pas crier. Elle compare depuis leur arrivée ses règles à un monstre qui se réveille et la vide. En 2018, une échographie pelvienne révèle une endométriose au niveau des ligaments utérosacrés. Lou Anne, 21 ans, a eu ses règles à 13 ans. Aucun problème d'abord. Au lycée, son ventre s'est mis à gonfler comme si elle était enceinte. Ses douleurs l'isolent. Elle annule les sorties à l'avance de peur de devoir le faire le jour même, tandis qu'elle a plus de jours avec des maux de ventre que des jours sans les douleurs. Son médecin traitant accuse de stress. Quelqu'un dans le chat me disait c'est tout à fait ça. Attends, je vais. Voilà. Moshi nous dit en général, les médecins disent que c'est le stress pour dire qu'ils ne savent pas vraiment. Parce qu'évidemment, quand c'est une femme, c'est forcément le stress qui fait qu'on est mal. Léana, ma mère a souffert d'endométriose au point que ça l'a rendue stérile et que ça a été compliqué pour m'avoir car les deux ovaires étaient infectés. Les médecins ont mis 8 ou 10 ans pour bien la diagnostiquer et elle a réussi à m'avoir après de longs traitements médicaux. Elle a souffert de douleurs jusqu'à la ménopause. Hein, vous êtes plusieurs à témoigner. Sugar, mon ex me décrivait des coups de poignard dans le bas du ventre à ne pas pouvoir tenir debout. En 2024, donc, cette jeune femme, donc Lou Anne, dont le médecin lui expliquait que c'était dans sa tête, encouragée par ses parents, approfondit les examens, une adénomyose sous forme d'endométriose dans l'utérus est décelée. Ophélie a 41 ans, elle a eu ses règles à 11 ans, depuis ce jour elle souffre beaucoup, 30 ans de douleur donc. Au début de la trentaine, alors que l'endométriose passe dans le langage médical courant, donc c'est il y a une dizaine d'années, tu vois, c'est assez quand même nouveau, hein. C'est-à-dire qu'avant on n'en parlait juste pas, hein. Elle évoque devant son médecin. Il a fermé la conversation immédiatement en me disant que cette maladie n'existait pas, que c'était une mode, ça c'était il y a 10 ans, je n'ai plus osé en reparler. En novembre, 11 ans après cette rebuffade, une sage-femme à la campagne lui a proposé de refaire des examens, je vais peut-être enfin savoir ce qui m'arrive. À L3, Laure, Rose et Louane affichent une moyenne d'errance médicale de 10,3 ans. Force, Little Kimou. Les crampes me font vomir tellement elles sont fortes, me dit Little Kimou. Et après, il y a tous les symptômes à côté, troubles digestifs, douleurs neuropathiques, sciatiques, douleurs à la vessie, l'article en parle aussi. On va parler des symptômes dans un instant. Donc 10,3 ans en moyenne d'errance médicale, proche de la moyenne nationale de 10 ans. Si une endométriose est diagnostiquée chez Ophélie, il aura fallu 30 ans pour qu'un médecin fasse le lien entre ses premiers symptômes et cette maladie gynécologique chronique, hein, caractérisée par la présence de tissus semblables à la muqueuse utérine, en dehors de l'utérus et qui s'enflamme, hein, c'est ce qu'on entendait tout à l'heure, responsable de lésions inflammatoires. Très présente dans les médias et les programmes politiques qui touchent une femme sur 10 en France, mais toujours très mal connue. Alors très présent, on en parle un peu plus qu'avant. Je ne sais pas si c'est très présent, mais toujours très mal connue. Regrette une médecin, une chirurgienne gynécologue qui s'appelle Carole Abbeau, pour deux grandes raisons. Pourquoi cette maladie est mal connue? Un, formation encore imparfaite des médecins, généralistes et radiologues notamment. Deux, variété des symptômes qui fait dire à Mélanie, secrétaire de l'association Endo France, qu'il existe une une endométriose par femme. Différente, quoi. Là, tia, j'ai grandi avec le faut s'offrir pour être belle, ça paraît con, mais c'est insidieux comme pensée. Les douleurs des femmes ont souvent été très minimisées, voire ignorées. Je vois beaucoup de témoignages dans le chat. Merci pour ces témoignages. Voilà, flamme d'argent, une torture depuis que j'ai 12 ans. Chaque docteur me dit que c'est normal de souffrir, les médicaments ne font rien. J'ai hâte de la ménopause vu qu'apparemment je ne peux pas choisir de me faire retirer mes organes reproducteurs. Force, hein ? Moshi, des fois il m'est impossible de me déplacer durant les premiers jours. Heureusement, mes amis d'université prennent les cours pour moi. Mais je doute qu'une fois au taf, on soit aussi indulgent, car ce n'est pas une excuse valable pour rester chez soi. Je vous lis. Merci Juju. Merci Petite Pierre. Merci Bernardou. Je reprends l'article. Alors, la première raison, donc formation encore imparfaite des médecins, a été déplorée sur tous les tons. En dépit de son existence millénaire, l'endométriose a l'air d'être une maladie contemporaine à la mode. La première description clinique de la pathologie a 4000 ans. La première description de la maladie a 4000 ans, mais la médecine a tellement longtemps associé les règles et la douleur qu'on ne s'y est jamais vraiment intéressé, explique un radiologue qui s'appelle Éric Petit, qui travaille au Centre d'imagerie médicale Paris 13, qui est un des centres pionniers dans l'approche multidisciplinaire. À quoi doit-elle sa popularisation récente ? Pourquoi on en parle depuis une dizaine d'années ? D'abord au procès de l'imagerie, de l'IRM pelvienne, notamment en parvenant à montrer les lésions sur les ovaires, les ligaments utérosacrés, les trompes, le vagin, la vessie. Les radios ont donné un sens commun à des souffrances sans rapport évident. Voilà. La meilleure compréhension de la douleur a permis de dégager des prises en charge plus fines, plus satisfaisantes pour les médecins eux-mêmes, ce qui a accru leur intérêt. En même temps, les patientes se sont aussi organisées en association, Endo France. Progrès, oui, pas procès, j'ai fourché. Et EndoMind, déterminé à arracher des financements pour les programmes de recherche. En 2022, le gouvernement a lancé une stratégie nationale dotée d'un budget, d'un volet de sensibilisation professionnelle et grand public, et depuis, même si ça reste très insuffisant, dit le docteur Petit, la formation s'est améliorée, constate également Mélanie d'Endo-France. Dans chaque région maintenant, une filière de soins, un réseau organisé de spécialistes chargés d'orienter les patientes vers le bon soignant a été déployé. Les femmes peuvent espérer tomber plus facilement sur des professionnels capables d'établir un pont entre deux ou trois symptômes. Celles qui ont beaucoup tâtonné peuvent être émues aux larmes par le simple fait qu'on ne minimise pas leur douleur. L'errance tient parfois aussi à la retenue de la patiente elle-même. Les symptômes sont tellement divers et complexes qu'on peut mettre du temps à faire le lien entre eux et même à les évoquer, rapporte Mélanie d'Endo-France, d'autant qu'ils peuvent relever d'autres affections comme le syndrome du côlon irritable, le SOPC, la fibromyalgie. Les plus fréquents de ces symptômes sont les douleurs pelviennes, surtout pendant les règles, les troubles digestifs. Quels sont les symptômes, hein ? Éric Petit va jusqu'à dire que pour lui, le seul syndrome constant, ce sont justement les troubles fonctionnels digestifs. Lara Croft dans le chat, bonjour, merci pour ce sujet dont on ne parle pas encore assez. Mon endométriose et mon adénomyose m'ont été diagnostiqués qu'à l'âge de 40 ans. J'ai eu ma première fille à 32, ma deuxième à 43 grâce à la PMA. J'attends moi aussi la ménopause avec impatience. Donc, le seul symptôme constant, les troubles fonctionnels digestifs, hein, mais la maladie est riche en autres réjouissances et voici d'autres symptômes. Là, je pense qu'on va en parler. Kinésithérapeute et sexologue, Lucie Yvelin a aidé des patientes à découvrir qu'elles ont été atteintes en les soignant pour du vaginisme, par exemple. Des contractions involontaires du périnée qui ont empêché la pénétration. Beaucoup de femmes ont eu simplement ont eu d'abord simplement mal lors de relations sexuelles, conséquence possible de l'endométriose, la dyspareunie. Elles ont accepté des rapports douloureux jusqu'à ce que leur périnée, pour les protéger, fasse barrière. Lucie, 30 ans, n'a pas pu avoir de rapport sexuel pendant près de 2 ans au cours de sa vingtaine. Aux toilettes, son copain devait l'attendre devant la cabine car elle lui arrivait de s'évanouir. Voilà. Aucun des médecins vus à l'époque n'avait associé ces difficultés-là à l'endométriose. Trouvé, il manque une partie de l'article, je vais dans le Figaro page 15.
Excusez-moi. Comme ça, on aura les petits mots qui manquent en bas, là. Aucun des médecins vus à l'époque n'avait associé ces difficultés à l'endométriose trouvée sur ses ovaires et près de son vagin. Mais il faut dire aussi que je ne mentionnais quasiment jamais le vaginisme. Je l'ai fait une fois, je crois, et on m'a envoyé voir une sexologue qui m'avait demandé d'empiler des boîtes, un exercice censé me décontracter. Chacune sa maladie, donc la phrase tout à l'heure disait « il y a quasiment une endométriose pour chaque femme ah. ». Elle, pour elle, la rééducation périnéale a réglé le problème. Chacune, sa maladie, donc, pas de vaginisme pour Ophélie, mais des vomissements, un épuisement si ancré qu'elle se dit fatiguée de naissance, pas de vomissement pour Rose, mais une difficulté à vider sa vessie, impliquant d'uriner quasiment toutes les heures, des maux de ventre, mais rien, dit-elle, qui gâche la vie. Une des patientes de Lucie Yvelin, endométriose sur le côlon, l'ovaire gauche et les ligaments utérosacrés, a développé une sciatique, quelqu'un nous parlait de ça dans le chat tout à l'heure, aux membres inférieurs et marche avec une canne, bien qu'elle n'ait pas 30 ans. A l'inverse, Joséphine, 31 ans, a mis un temps fou à se penser concernée, tant elle ne voyait pas de rapport entre les histoires dramatiques qu'elle entendait et ses problèmes à elle. Et elle dit « J'ai découvert l'endométriose par la chanteuse Laurie qui a dû se faire retirer l'utérus. Moi, j'ai simplement mal pendant les règles, donc je n'en parlais pas au médecin. La difficulté, c'est de ne pas mettre tout ce qui nous arrive sur le dos de la maladie, tout en repérant ce qui y est lié, observe Mélanie d'Endofrance. » Selon l'INSERM, les symptômes caractéristiques sont les douleurs pelviennes récurrentes, les douleurs abdominales, la dyspareunie. Alors, la dyspareunie, c'est quoi ? Ah, ce sont les douleurs ressenties pendant et après un rapport sexuel. La dysurie, douleur quand on urine. La dyschésie, douleur quand on défèque. L'infertilité, 30% à 40% des femmes touchées par l'endométriose ont des difficultés à avoir des enfants. Je pense qu'on connaît tous dans notre entourage des femmes qui sont touchées. Si les symptômes cliniques peuvent aiguiller les professionnels, c'est pour ça que j'ai pris le temps sur les symptômes, c'est pour les lister, c'est les symptômes les plus fréquents. Le mieux est d'obtenir un diagnostic officiel, notamment pour espérer la reconnaissance d'une ALD, affection de longue durée, un examen clinique, puis un bilan d'imagerie, échographie pelvienne, parfois doublée d'une IRM pelvienne. Le problème est qu'en fonction des zones atteintes ou de la profondeur des lésions, l'imagerie peut ne rien... Oh pardon, vous n'avez pas la scène. Ne rien révéler du tout. C'est mieux si elle ne se voit pas, dit la chirurgienne Carole Abbeau, dont l'une des patientes est près de perdre un rein alors qu'elle ne souffre pas. La compression des organes est une conséquence possible de la maladie, mais souffrir sans preuve est exaspérant, d'autant qu'une endométriose dite superficielle peut provoquer des douleurs profondes. Alors vous êtes très nombreux à me parler des ultrasons dans le chat. Nouvelle technique, mais l'article n'en parle pas, je crois. Bon, on va aller chercher, hein, parce que vous êtes plusieurs à me dire qu'il y a du nouveau en la matière. Depuis l'an dernier, certains gynécologues, membres de centres de pointe, sont en mesure de prescrire un test salivaire expérimental. Quelqu'un me disait tout à l'heure, au tout début de cette revue de presse, alors moi je suis concerné, mais l'IRM, je désespère parce que l'IRM n'a rien montré. Alors il y a du nouveau. Depuis l'an dernier, certains gynécologues, membres de centres de pointe, sont en mesure de prescrire un test salivaire expérimental, l'endotest, à leurs patientes en détresse pour qui l'imagerie ne montre rien. Prometteur, il affiche des performances élevées dans les premières études, mais reste en cours d'évaluation. Voilà. Après relativisme Mélanie d'Endofrance, la prise en charge de la douleur peut être faite sans diagnostic aussi. Je suis échographiste. Bélérian dans le chat me dit « Je suis échographiste spécialisé en douleurs pelviennes et endométriose. On doit préciser que le plus important, c'est la qualité de vie et pas le diagnostic. Le problème, c'est qu'il est nécessaire si les femmes ne sont pas écoutées. Ça reconnaît leur douleur et c'est un scandale. Je suis enceinte d'une fille, me dit Sandra. Alors je prie de toutes mes forces pour qu'elle n'ait pas mon endo. Donc il y a un test là qui est en voie d'évaluation. Voilà. Donc après Relative Mélanie dans Dauphrance, la prise en charge de la douleur peut être faite sans diagnostic. Hein. Le traitement le plus courant car le plus efficace, la pilule en continu. Une bénédiction pour une part des femmes, une difficulté supplémentaire pour d'autres. Allons voir peut-être cette histoire de quoi ? D'ultrasons ? C'est ça ? Je ne comprends pas comment la maladie a été détectée si les médecins n'arrivent pas à la détecter. L'article ne dit à aucun moment que les médecins n'arrivent pas à détecter l'endométriose, notamment par l'IRM. C'est l'IRM qui a révolutionné ça, notamment. Ils n'arrivent pas à la soigner, ce qui est autre chose. Juste à traiter les symptômes, si je ne dis pas de bêtises. Allons voir les ultrasons.
Ok.
J'ai des douleurs pelviennes régulières. Il y a 10 ans, on m'a fait un diagnostic par écho qui n'a rien révélé, me dit Lolly Witch. J'ai donc des douleurs à cause du stress. Ce stream me donne envie de remettre le sujet sur la table maintenant que je sais que je ne suis pas la seule pour qui l'écho ne dit rien. Mais il y a ce test salivaire là. Alors, donc, cherchons. Là, j'ai un article des Hospices Civils de Lyon, par exemple. C'est pas mal, ça. Mars 2026, c'est pas mal, ça, en termes de sérieux. C'est pas mal, ça. Merci, Drecker. Merci, Juju. Alors, pardon pour le côté le blanc de la page, là. Donc, effectivement, alors comme certains me le disaient, c'est tout récent. Aux Hospices Civils de Lyon, les ondes IFU, je pense que je prononce comme ça, révolutionnent la prise en charge de l'endométriose digestive. Technique innovante, moins invasive, préservant la fertilité. Désormais une référence grâce à l'expertise pionnière des équipes lyonnaises. Et là, et comme le souligne Saleng, c'est du traitement. Ouais. Oui, mais je ne dis pas que c'est du diagnostic. Mais personne ne dit que c'est du diagnostic. Le diagnostic, c'était le test salivaire. Ce que disaient plusieurs dans le chat tout à l'heure, c'est que ces ultrasons, c'était un traitement révolutionnaire. Alors, a priori, ici, indiqué uniquement pour l'endométriose digestive. Ah, on a un article assez général. Que je pense qu'on peut prendre le temps de lire. L'endométriose touche une Française sur 10 en âge d'avoir des enfants, donc elle provoque d'intenses douleurs pendant les règles, voire en dehors de la période du cycle, handicape certaines femmes jusqu'à les clouer au lit pendant une semaine, hein, ça rejoint ce qu'on vient de lire. La maladie se caractérise par quoi ? La présence de muqueuses en utérine, qu'on appelle l'endomètre, en dehors de l'utérus, et dans un cas sur 5, la teinte se situe aussi vers le rectum, ce qui en genre des diarrhées, constipation, d'impétueux besoin d'aller à la selle, des douleurs lors de rapports sexuels. Le traitement consistait... Alors le traitement proposé aujourd'hui, a priori jusqu'ici, consiste en une intervention lourde au cours de laquelle le chirurgien coupe ou rase les lésions pendant les 4 à 6 heures que durait l'opération. Ces chirurgies sont généralement mutilantes, entraînant des problèmes pour uriner, un risque important de fistule et dans près d'un cas sur deux, la pose d'un anus artificiel pour quelques mois. Donc c'est très très lourd comme opération. Voilà. Voilà. Ouais. Alors maintenant, il y a autre chose. Donc il y a un appareil qui a été utilisé pour le 30 mètres du traitement du cancer de la prostate. Voilà. Le traitement est réalisé en ambulatoire, donc c'est moins lourd, ou dans le cadre d'une hospitalisation courte, voilà, avec une réduction, donc, et la patiente quitte l'hôpital après quelques heures, avec une réduction rapide des douleurs et sans altération de sa fertilité. Ça a l'air fou en vrai. Et ce traitement a obtenu une norme CE en mars 2025. Et les hospices civils de Lyon sont aujourd'hui le premier centre au monde à proposer ce traitement en routine, avec une capacité à traiter jusqu'à 100 patients dès la première année. C'est vraiment tout récent. Alors, et là, on parle d'endométriose digestive. Voilà. Donc, il y a un progrès, mais qui ne concerne peut-être pas tous les types d'endométriose. Merci, salut, Kéké Bébène. J'avoue. Voilà. Bonne question, quelqu'un dans le chat me dit alors, traitement en routine, c'est vrai qu'il faut le faire régulièrement. J'ai l'impression que c'est plutôt le fait qu'ils peuvent le faire, on va dire, massivement dans cet hôpital. J'ai l'impression, plutôt. Jusqu'à une centaine de patients traités sur une année. Je pense que c'est plutôt ça. Les hospices civils de Lyon. Voilà. Alors, Zenith nous met un petit warning. L'étude est biaisée. Si c'est Lyon qui propose le traitement et fait l'étude, il faudrait trouver une étude plus généralisée. Je comprends l'exigence de rigueur scientifique. Il ne faudrait pas que ça provoque des déceptions aussi après. Alors, est-ce que la société est en capacité de mieux entendre la douleur des femmes? Anté Hardis nous dit dans le chat, dans mon école d'ingé, ils ont mis en place un congé menstruel qui permet aux femmes atteintes d'endométriose de pouvoir échapper aux cours sans nécessité de justificatif. Yatolène met ce message dans le chat. Alors, les amis de... Genre, je fais une petite pause, pardon. Les amis de Tours, là. Je vous assiste du journalisme de Tours cet après-midi. Donc, j'accepte jamais ce genre de déplacement parce que j'ai un emploi du temps qui est très contraint, qui est très compliqué, vous le savez. Et donc, parce que une des personnes qui s'en occupe est une femme que j'adore, qui s'appelle Marie-Laure Augry. À titre exceptionnel, j'ai dit, OK, donc je fais une revue de presse plus courte ce matin, je saute dans un train, je vais à Tours. Je participe à deux conférences. Je reviens pour pouvoir bosser après ce soir. Voilà. Et depuis, pardon, hein, je vous dis ça gentiment, mais depuis 10 minutes, alors qu'on parle d'un sujet quand même gravissime qui est l'endométriose, il y a des gens qui viennent me dire « Oh Samuel, on t'attend à radio, je ne sais pas quoi, à Tours. » J'ai reçu, je ne peux pas vous dire combien de demandes j'ai reçues d'interviews, d'échanges pour différentes choses à Tours, en plus de ces deux tables rondes, des gens qui ont vu que mon nom était... à l'ordre du jour du truc en disant voilà, et je ne reçois, ça fait une semaine je reçois des mails et des relances sans arrêt en me disant est-ce que voilà, ça dure 10 minutes, ça dure un quart d'heure et tout. Donc maintenant arrêtez de spammer dans le chat, je vous dis ça très gentiment, je vais faire ces deux tables rondes, voilà, c'est ma priorité. Si j'arrive à trouver 10 minutes sur place pour donner des interviews, j'essaierai de le faire. Mais par contre, voilà, arrêtez de spammer le chat, vous n'êtes pas les seuls, j'ai reçu énormément de messages. J'ai essayé de répondre au premier en disant, écoutez, ça va être très contraint en termes de temps, je viens en coup de vent et j'ai déjà deux fois une heure sur place, donc je ne pourrais pas. Et puis après, j'ai arrêté de répondre parce que j'ai vraiment reçu beaucoup de messages. Merci beaucoup. Alors, si je trouve le temps, je trouverai le temps, mais c'est un peu compliqué, quoi. Mon train arrive à l'heure où débute ma première conférence. Voilà. Alors si en arrivant, je suis attrapé par la veste en disant tiens, on fait une interview, vas-y, 10 minutes, alors que littéralement mon train arrive à l'heure de ma première conférence, oui, c'est chaud, quoi. Je dis ça parce que plusieurs personnes se sont relayées depuis 10 minutes alors qu'on parlait de ce sujet pour m'interpeller là-dessus. Mais ta conférence est à la gare ou quoi? Bah, elle est en face. Voilà.
Donc on compte sur la SNCF. J'arrive à 45, ma conférence débute à 45. Autant dire que ça va être compliqué. Voilà. Donc revenons à l'endométriose. Oh putain, dans 9 minutes je pars. Oh, attends, il me reste beaucoup d'articles ou pas? Ah non, putain, il reste 9 minutes. Ok, bah vous voyez, je me dépêche. Ok, il reste un sujet. Bah 10 minutes pour la facturation électronique, merde. Ah zut. Attendez, je vérifie, ça va être chaud. Oui, c'est ça, bon, je me dépêche. Non, il faut qu'on en parle. Bon, sinon, on en parlera un petit peu demain. Ou je déborde, ou mon taxi va m'attendre 5 minutes. Voilà. Ça, bon, c'est très personnel, ça m'intéresse, parce que j'y comprends rien, mais j'ai cru comprendre que d'autres se posaient beaucoup de questions sur ça. Voilà. Peut-être qu'on va essayer de comprendre ça avec cet article sur, dans Le Figaro, entrepreneur, sur la facturation électronique. Donc ça, c'est un petit bouleversement hein, qui arrive quand même en la matière. Pour les grosses entreprises d'abord, mais après pour toutes les petites entreprises. Alors, c'est la une de ce cahier spécial. Le coup d'envoi de la réforme sera donné le 1er septembre prochain. Donc ça arrive. Coût, fonctionnement, contraintes, voilà les premiers retours des professionnels. La facturation électronique, une avancée pour les entreprises et les finances publiques, nous dit Le Figaro. La lutte contre la fraude à la TVA, c'est ça qui est mis en avant par le gouvernement, sera facilitée par cette réforme dont le coup d'envoi sera donné le 1er septembre prochain. Mais ce n'est pas le seul enjeu de cette nouvelle façon de transmettre ses factures. Voilà. Fini le black, les fausses factures, les arnaques à la TVA, me dit Marco de Dwarf pour résumer. Sauf que moi, ça me stresse un peu parce que je ne sais pas comment ça va marcher cette histoire. Des aigrefins, donc des malhonnêtes, qui se jouent des mécanismes de l'UE pour se faire rembourser une TVA qu'ils n'ont pas acquittée, des entreprises qui trichent en sous-déclarant leur activité pour payer moins d'impôts. Voilà. Desclosel me dit les factures électroniques, c'est pas cool pour nous les petits patrons, il faut des solutions gratuites car c'est un coût supplémentaire obligatoire. La fraude coûte des milliards d'euros à l'État. L'un des enjeux de la facturation électronique dont le coût d'envoi sera donné le 1er septembre est de mettre fin à cette fraude. À terme, quand la réforme sera entièrement mise en place après le 1er septembre 2027, toutes les entreprises assujetties à la TVA, toutes, voilà, enverront leurs factures sur un format standardisé via des plateformes agréées, transmettant aussi au passage les informations à l'administration fiscale. Elles devront même remonter à cette dernière le chiffre d'affaires réalisé avec leurs autres transactions, voilà, et les données de paiement. D'ici quelques années, l'administration envisage même, comme pour la déclaration de revenus des particuliers, de pouvoir pré-remplir les déclarations de TVA que les entreprises effectuent aujourd'hui elles-mêmes, ces dernières n'auraient plus qu'à contrôler les informations collectées par l'État. Mais il faut attendre que la réforme soit pleinement entrée en action après 2027 pour réaliser ces tests. Il pourrait se révéler nécessaire au préalable de simplifier la TVA, car il existe aujourd'hui de nombreux cas particuliers, c'est vrai, susceptibles d'être des sources d'erreurs lors de la collecte des données. Mais ça, c'est pour après. On n'est pas encore à la déclaration pré-remplie. Excusez-moi, je trouve que l'article est... anticipe sur l'après. Je trouvais pas très clair sur ce qui arrive en 2027. Non, il n'est pas terrible l'article. Alors moi, le problème sur cette... Pardon, hein, je vais râler. Je vais râler depuis le début. Ça fait des mois que je lis des articles sur la facturation électronique et je trouve que ils sont pas clairs, ils manquent de pédagogie. Bah, je trouve que c'est encore le cas de cet article. Je l'ai lu en diagonale ce matin, je me suis dit, tiens, ça a l'air ok. Ben moi, peut-être que j'attends pas la bonne chose de l'article, j'attends un peu un article très pédagogique pour expliquer au grand public comment ça fonctionne. Vous savez quoi, on va laisser tomber, et je vais vous lire vous, parce qu'à mon avis, ce sera beaucoup plus clair. C'est parti. Alors, parce que personne n'y comprend rien, je crois à la facture électronique. Bon, alors moi, mon comptable m'a expliqué, j'ai toujours pas trop compris. Je lis Le Figaro, j'ai toujours pas trop compris. Mais je suis sûr que dans le chat, je vais avoir des gens qui vont m'expliquer correctement. Alors, Bertie Prod me dit c'est parce que même le gouvernement ne l'explique pas très très bien.
Dans l'esprit, je comprends, mais comment on va gérer les notes de frais au resto avec un fournisseur? Ah bah tiens, là, pour le coup, il y a un encadré qui est très clair. Regarde. Pour les notes de frais, de nouvelles contraintes et un rituel inédit au moment de l'addition. Pop, 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 pop. Alors là, vous allez voir. Pardon, mais c'est là où moi, où je commence un peu à m'inquiéter parce que je trouve que c'est pas si simple, quoi. Une note de taxi, une facture d'hôtel, l'addition dans un resto, de nombreux salariés qui n'ont pas de carte bancaire de l'entreprise engagent ces dépenses dans le cadre du travail, les paient et sont remboursés par leur employeur une fois leur note de frais dûment remplie. Bon, ça, vous connaissez. Surprise, puisque c'est in fine l'entreprise qui finance, ces transactions sont considérées comme des opérations entre entreprises et non entre entreprises et particuliers. Or, toutes les opérations entre des entreprises établies en France doivent bientôt passer sous le régime de la facturation électronique, c'est-à-dire obéir à des normes précises, à être envoyés et réceptionnés via des plateformes agréées par l'État, voilà, qui pourra ainsi les suivre à la trace et les comptabiliser sans risque d'erreur, puisque chaque entreprise est identifiée par un code unique. Voilà, toujours la lutte contre la fraude. Les notes de frais, les petites notes de frais là, qui en ont plein de boîtes. Hein. Tiens, tu vois, Blondie me dit « Je suis comptable pour info » et ça reste flou. Les raisons pour créer cela pour faciliter les contrôles du fisc, oui, mais la mise en place en pratique, aïe aïe aïe. Pardon, mais ça sent un peu le bordel cette histoire. Exactement, me dit Galou, en hôtellerie en Belgique, c'est déjà le cas. Les clients ne comprennent pas, mais nous n'avons pas le choix. Je poursuis. Les notes de frais vont donc, elles aussi, devoir se plier à ces nouvelles règles. Justificatif papier remis aux collaborateurs à la fin du repas, après la course de taxi ou la nuit d'hôtel, ne sera plus toujours suffisante. Le commerçant devra envoyer à l'employeur du gars la facture électronique en bonne et due forme via sa plateforme agréée. Sans cela, l'entreprise qui rembourse la note de frais ne pourra pas récupérer la TVA. Voilà. La loi prévoit une exception, l'addition de moins de 150 euros hors taxe émise par un restaurant pourra continuer à être traitée comme avant sans facture électronique. En outre, un délai supplémentaire est prévu pour les transactions avec des PME. Voilà. Si les grandes entreprises et les ETI doivent dès le 1er septembre prochain émettre et recevoir toutes leurs factures sous ce format de recettes et de dépenses, les petites entreprises, elles, ne seront obligées d'en émettre qu'un an plus tard, au 1er septembre 2027. D'ici là, elles doivent seulement être capables de les réceptionner. Et à partir du 1er septembre 2027, elles devront aussi les envoyer, quoi. Alors, comment le commerçant... donc, par exemple, tu vas à un restaurateur. Voilà. Un salarié vient bouffer, voilà, il demande une note de frais. Comment pourra-t-il envoyer la facture électronique à l'employeur du salarié? Un nouveau rituel va se mettre en place. Pardon, mais moi, je trouve que c'est une usine à gaz. Je me trompe peut-être, mais... Au moment de payer l'addition au restaurant ou à l'hôtel, le salarié devra fournir au commerçant les codes adresses comprenant notamment le numéro sirène de son entreprise, indispensable pour permettre à ce dernier d'adresser une facture électronique conforme au bon endroit. La queue à la caisse du resto, quoi. Voilà. D'autres pistes sont envisagées pour aider les collaborateurs à fournir facilement et sans erreur ces précieux codes. Par exemple, ils pourront bénéficier dans l'application utilisée pour remplir leur note de frais, à supposer qu'il y ait une appli, enfin bon, d'un lien à copier ou à envoyer, ou plus simplement d'un QR code, que le commerçant flashera pour récupérer toutes les informations nécessaires. Pardon, hein. Alors, Jaca me dit, ça se fait déjà en Italie, il n'y a pas de queue, c'est devenu naturel. Bon. Le commerçant, même s'il envoie une facture, se fera toujours régler immédiatement. La facture sera envoyée avec le statut déjà réglé, puisque le salarié s'en sera déjà acquitté sur place. Le souci, l'entreprise ne pourra pas forcément identifier facilement. C'est mon train, ça. Écoutez ça. Le souci, l'entreprise qui recevra la facture ne pourra pas forcément identifier facilement à quelle note de frais correspondent les factures électroniques réglées qu'elle récupère. Ni d'ailleurs savoir quel collaborateur a annoncé la dépense, à moins de rechercher le même montant le même jour dans toutes les notes de frais de ses équipes. Pardon, hein, ça n'a pas l'air fou, hein. Donc, les éditeurs de solutions informatiques pensent aujourd'hui sur des systèmes qui faciliteraient ces rapprochements, par exemple en indiquant quelque part sur la facture le nom du collaborateur. Waouh. Alors, moi, je suis sûr que dans le chat, des gens vont me dire « T'inquiète, Sam, ça va bien se passer. » Moi, ça fait un moment que j'essaie de lire des trucs là-dessus. Et... Merci, Aura Pastek. Merci, Chris Kiara. Merci, Philantique. Vous voyez ? Rassurez-moi, j'ai quand même des comptables dans le chat qui ont dit ça va être chaud. Hein. Ouais, j'y vais. T'inquiète, Sam, ça va être un carnage, me dit Pandanirio.
Ton comptable a pris le temps de t'expliquer. Si, il m'a expliqué, mais j'ai pris des notes. Hein, mais sur le coup, c'était clair et il faudrait que je relise mes notes, quoi. Je vous lis. Hein. Ça va, j'ai encore quelques minutes. Faut qu'on fasse le raid aussi. De mon spectre, dans une structure assez grande, dit le comptable, dans le chat, ça me paraissait ok, mais effectivement, pour les commerçants, ça va être un enfer. Alors, Ludoglam me dit, on est un des derniers pays à mettre en œuvre la facture électrique, électronique. T'es sûr de ça? On est vraiment si à la bourre que ça? Il y a Exalistus qui essaie de nous rassurer un petit peu, c'est pas faux, j'ai souvenir du prélèvement à la source qui était très flou avant sa mise en place et qui finalement s'est fait de façon assez fluide, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Traduction, me dit Desclozel, les notes de frais pour les indépendants qu'on facture aux clients vont devenir un vrai bourbier administratif. Bon, écoutez ce qu'on va faire. Je prends l'engagement de continuer à éplucher le sujet, à poser des questions à mon comptable. Voilà. Et si je finis par comprendre, je vous en parle. Ok ? On fait ça? Allez, un petit raid. Et go dans le train. Qui est en live que je connais? Mais trop bien! Pardon, j'avais pas vu. Il y a Sicarius qui me fait une propale de raid. J'en profite, Samuel Etienne, pour te faire une proposition de raid chez Monody qui fait le tour d'Europe à vélo tous les jours en live au profit de la Ligue contre le cancer. On avait un ami streamer qui avait fait ça aussi pour du caritatif et pour la lutte contre le cancer, vous. C'était qui? Je suis con, mais c'est Monody. Mais il remet ça. Mais il recommence.
C'est génial.
Je me dis, tiens, c'est la même chose que Monody. Ah ben, let's go. Eh ben, on le raid. Incroyable. Eh ben, très bien. Il est incroyable, ce gars. Allez, let's go. Eh ben, c'est reparti. Il est fou. Et ça stream en vélo. Et ça stream en vélo. Ah, ben bravo, il est incroyable. C'est parti. Le raid charge. Merci pour ce matin. Je vous retrouve peut-être ce soir, sûrement demain matin pour la revue de presse. Des bisous. Je coupe la caméra comme ça, aucun accident n'est possible. Hein, tu sais. Le raid se charge. Je saute dans mon train. Je vous retrouve demain matin ou plus tard. Ce soir peut-être pour de la commission ou du gaming, je ne sais pas encore. Là, je vais à Tours. Let's go. Bonne journée.